Bonjour à tous, bienvenue dans Les Doigts dans la Prise, votre rendez-vous sur la voiture électrique, la voiture autonome et les nouvelles mobilités, l'un des rares, très rares podcasts automobiles qui ne met jamais de super samplon dans ses Rice Krispies du matin. Ravi de vous trouver, je suis Cédric Ingrand. Bon, ça faisait bien quelques mois qu'on s'était pas parlé, non ? Au sommaire aujourd'hui, le fiasco de l'Apple Car abandonné avant même d'avoir été dévoilé. Dévoilé, justement, la R5, nouvelle époque de Renault, symbole de sa Renaultution. Renault qui signe aussi le modèle sacré voiture de l'année au salon de Genève. Un salon d'ailleurs un peu triste, on va y revenir. Ailleurs dans l'actualité, des ventes de voitures électriques en berne en ce début d'année. Alors faut-il vraiment s'en inquiéter ? Est-ce un mauvais signe pour l'avenir ? Et puis, on se reparlera aussi d'un de nos sujets favoris, vous savez, l'hydrogène. L'hydrogène qui n'arrête pas de voir son futur se rétrécir quand même des constructeurs de poids lourds disent ne plus y croire. À mes côtés, pour évoquer tous ces sujets, mon camarade, Didier Pulicani de Mac4ever. Bonjour Didier, comment ça va ?
Mais salut Cédric, mais c'est un plaisir de se retrouver. On n'en fait pas souvent des podcasts, non. Mais tu les charges bien.
Oui, c'est vrai.
En tout cas, il y a beaucoup de sujets cette semaine. Et en plus, j'étais à Genève, tu vois, donc ça tombe.
Eh bien, c'est bien pour ça que tu es là. Mais pas que, parce que tu as plein de choses à nous raconter. C'est formidable. Alors, ce qui est intéressant aussi, pour la première fois, on fait une version vidéo que vous retrouverez sur ma page YouTube. C'est un peu un essai. Moi qui me contentais de l'audio pendant longtemps, je vous rassure, l'audio restera toujours. Hein, je ne vais pas devenir YouTuber. Mais voilà, si vraiment vous avez envie de voir nos frimousses fatiguées du soir. Grand bien vous fasse. Alors, tu le disais, hein, beaucoup de sujets d'actualité, une actualité portée par les produits, et puis il y a des actualités auxquelles on s'attendait un peu moins. Je ne savais pas par quoi commencer, et puis tout à coup, l'évidence s'est faite jour devant nous, avec l'annonce, la fuite contrôlée, dirons-nous, du fait que Apple abandonne son Apple Car, ce qui n'était pas vraiment son nom. Mais en gros, tout ce qu'on appelait le projet Titan depuis maintenant une dizaine d'années, eh ben c'est terminé.
Et oui, Cédric. Alors, ce qui est le plus amusant, c'est que derrière, en fait, Apple n'a jamais dit « on va faire une voiture ». Ils n'ont jamais dit non plus « on arrête de faire la voiture ». Mais entre deux, on a quand même eu pas mal d'infos. Il y a eu évidemment pas mal de monde qui est passé officiellement chez Apple pour faire quand même de la voiture. Il y avait des profils LinkedIn, il y avait aussi des autorisations de circuler. Tu te rappelles, en Californie, il y a un certain nombre de véhicules sont étiquetés Apple et qui ont le droit de circuler en conduite autonome. Donc, ils avaient quand même des projets. On n'a jamais su s'il s'agissait d'une voiture complète, s'il s'agissait juste du logiciel. Ou si
en fait, on s'est même demandé si c'était pas un peu tout ça, mais de manière successive, parce que il y a eu, c'est intéressant d'en parler pour un projet dont on n'a jamais rien su officiellement, de voir qu'il y a eu en fait des époques. La première, ce qu'on évoquait au début, c'était plutôt une sorte de voiture entièrement autonome, mais au sens même plus de volant, quoi. Une espèce de véhicule de déplacement autonome. Et ça s'est vu en fait au fur et à mesure, en tout cas c'était les hypothèses qu'on avait, au fur et à mesure des gens qui embauchaient, ou plutôt d'ailleurs qui débauchaient ailleurs dans l'industrie, ils en ont débauché partout, chez Tesla, ailleurs. Et on s'est longtemps demandé en disant, ils ont peut-être changé leur fusil d'épaule, ça y est, c'est en train de devenir une vraie voiture. Est-ce que c'est juste du logiciel ? Je crois que la seule chose qui est finalement fuitée, c'était, souviens-toi, cette image d'un tableau de bord, mais c'était quand ? C'était lors de la dernière conf développeur, si je me souviens bien.
Il y a beaucoup d'infos en fait autour de ça. Moi, je me souviens même qu'au tout début, ils avaient loué un circuit et que tu avais des gens qui disaient oui, on entend des bruits de moteur et c'est officiellement un circuit loué par Apple. Donc, manifestement, moi je pense qu'ils ont commencé par se dire on fait une voiture. Voilà, ils avaient vraiment envie de faire une voiture. Et petit à petit, ils se sont quand même rendus compte que c'était quand même un gros projet industriel bien plus complexe que pour le téléphone. Qui se sont petit à petit réorientés vers la conduite semi-autonome. Et puis à la fin, j'ai l'impression qu'ils ne savaient plus du tout où ils allaient, parce que moi j'ai suivi tous les changements de direction. Tu avais quasiment une nouvelle personne tous les 2-3 ans, ce qui n'est pas forcément facile hein, sur un projet comme ça. Et puis la question que tout le monde se posait, c'est aussi est-ce que c'est pas un canard sans tête finalement cet Apple Car? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide où est-ce qu'on va. Et là, je pense qu'on a un peu le résultat de tout ça, c'est-à-dire que pas de vision, des chaises musicales, un projet qui part dans toutes les directions, et quand même des budgets assez conséquents qui ont été mis derrière.
Ça leur a coûté, je sais pas, des milliards et des milliards et des milliards, des parce milliards. Que en plus ils ont racheté des startups, ils ont, enfin, c'était pas quatre mecs au fond d'un couloir qui disaient chef, vous inquiétez pas, on vous appelle quand c'est prêt. Non, ils étaient des milliers. Les chiffres qu'on donnait hier, c'était 2000 personnes. 2000 personnes.
Ce qui est très amusant, c'est que dans le milieu automobile, c'est un secret de polichinelle. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière tout ça, tu avais énormément d'accessoiristes, de partenaires, de constructeurs qui étaient parfaitement au courant des équipementiers et qui travaillaient déjà avec Apple. Donc, c'était, tu avais même en Suisse, là, moi, j'ai eu pas mal d'échos autour de Zurich de gens qui bossaient là-dedans, des boîtes et tout, parce que tu fais pas une voiture comme ça dans ton garage. Donc, tu étais obligé d'impliquer beaucoup de gens. Donc, c'est effectivement un très, très gros projet. Mais pour autant, personne n'était vraiment au courant de la finalité. C'est ça le plus dingue, c'est que même les meilleures sources, tu vois, même Mark Gurman, qui avait révélé hein, effectivement le projet Titan, n'arrivait pas vraiment. Il parlait un petit peu de temps en temps, tu vois, on replace un peu le projet. Maintenant, on se concentre sur la conduite autonome. Maintenant, on se concentre sur le logiciel. Effectivement, la dernière brique, c'était plus une espèce de CarPlay qui allait arriver chez les constructeurs, mais on ne savait pas bien lesquels.
Mais alors, là, tout à coup, est-ce que ça justifiait tous les investissements jusque-là, les 2000 personnes et le reste, enfin, c'est un CarPlay amélioré.
Moi, je ne pense pas que tout ça va partir à la poubelle quand même, quand tu vois l'investissement derrière. S'ils ont développé un bon software, s'ils ont développé, par exemple, de l'IA, tu vois, aujourd'hui, l'idée de remettre un petit peu les troupes dans l'IA, c'est peut-être un moyen de dire aussi, bah, peut-être qu'on va faire de l'IA, mais pour l'automobile, tu vois, et le revendre peut-être.
Ah. C'est pas exactement la façon, personne n'a communiqué, donc c'est difficile de commenter ce qu'ils n'ont pas dit. Apparemment, ce que disent tous les papiers que j'ai lus jusque-là, c'est que les gens qui faisaient du hardware ont été gentiment poussés vers la sortie, et puis ceux qui faisaient du software ont été reversés vers l'IA. Bon, ok, soit. Mais c'est intéressant parce que, enfin, c'est facile maintenant de dire « ouais, moi j'y ai jamais cru ». Non, on a tous eu envie d'y croire en tout cas, mais c'est vrai que c'était compliqué, c'était difficile de se dire ils vont faire une voiture. Ok, tu fais une voiture. D'abord, comment est-ce que tu fais une voiture? C'est-à-dire, pour une entreprise qui a dans sa culture d'avoir très peu de moyens de production, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de choses sur le design industriel, et puis après, ils ont des partenaires industriels qui produisent. Dans l'automobile, quand même, la culture, c'est plutôt d'avoir ses propres usines. C'est difficile de tout déléguer.
Alors, il y avait quand même une petite info qu'on a oubliée, c'est qu'il y a quelques années, Tesla était un peu au bord du gouffre. Et Elon Musk a révélé, alors je crois que c'était il y a un an ou deux.
Oui, bien sûr, c'était dans sa bio.
Voilà, exactement, qu'il avait proposé en gros à Apple de les racheter pour une bouchée de pain à l'époque, sachant que...
Une bouchée de pain par rapport à la valo d'aujourd'hui, disons que c'était quand même de l'argent, mais c'était, rétrospectivement, ça aurait été une très belle affaire.
Bah oui, puis en plus ils sont à côté, tu vois, ils ont la techno, ils ont un peu la philosophie Apple comme ça très verticalisée.
Il y avait des trucs de culture qui étaient assez compatibles jusqu'où on l'aurait vu, mais est-ce que Tesla opéré par Apple aurait été le même? C'est un peu...
Bon. Surtout, est-ce que Tesla n'aurait pas dû refiler Elon Musk à Apple et remplacer Tim Cook? C'était surtout ça le problème de Tim Cook, je pense.
Alors rétrospectivement, je pense que les actionnaires d'Apple aujourd'hui se félicitent de ne pas avoir Elon Musk comme CEO.
C'est possible. Bah, c'est vrai que tu donnes 300 ou 400 milliards, je ne sais plus combien ils ont Apple en banque en ce moment, à Elon Musk. Je ne sais pas ce qu'il fait. Hein, s'il te fait une fusée, s'il te fait une voiture, s'il te fait un robot ou un extraterrestre. Mais j'avoue que ça aurait pu être beaucoup plus drôle que ce qu'on a eu jusque-là aujourd'hui. Et d'ailleurs, tiens, moi, je voulais avoir ton avis un petit peu, Cédric. C'est toi qui suis Apple depuis très longtemps.
Un peu.
On sent qu'Apple cherche quand même des relais de croissance. Voilà, pour succéder un peu à l'iPhone. La voiture, c'était quand même un gros potentiel,
Tout à coup, ça fait bien dans la presse. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça coche une grosse case, parce que quand t'es une entreprise de cette échelle-là, la question, c'est pas juste « Bon, qu'est-ce que je fais pour la nouvelle version de mon produit ?» C'est « D'où va venir mes prochains 1000 milliards de dollars de valorisation en bourse ?» Et ça se fait pas juste avec un iPad un peu plus grand. Il faut trouver quand même des vraies solutions. En gros, il faut aller défricher des nouveaux marchés. Et on le voit, c'est un truc qui anime à la fois Amazon et d'autres. C'est de se dire, bon, quel marché il faut qu'on investisse? Alors, il y a des choses plus ou moins évidentes. C'est-à-dire que la santé, la finance... l'éducation, c'est-à-dire des trucs absolument gigantesques. Et si tu fais du hardware, évidemment, en plus on arrive à un moment où c'est intéressant parce qu'ils avaient un peu d'avance là-dessus, où tout à coup tu vois des entreprises que tu as connues parce qu'elles faisaient des smartphones et des tailleurs électriques qui se mettent à faire des voitures. Je pense à Xiaomi par exemple. Et en tout cas, tu es sur un marché où il y a de la place pour des nouveaux entrants, surtout si, contrairement à des BYD, etc., etc., ils ont des marques qu'ils n'ont pas besoin de présenter au public en disant vous allez voir, on est des gens sérieux. On sait faire. Pour autant, le problème que j'ai eu depuis le début, c'était ça. C'était quand même de dire non, mais attends, pour faire des voitures, il faut avoir une usine. Voilà. C'est difficile d'imaginer de sous-traiter de la voiture, d'autant qu'après, il faut les distribuer. Et puis, il y a du service autour de la voiture. Et tout ça, tu ne peux pas le faire dans un Apple Store qui est dans un shopping mall. Tu vois ce que je veux dire?
Clairement, mais Apple avait vraiment les moyens aujourd'hui de se payer un constructeur, mais ils ont beaucoup de mal à acheter des grandes entreprises aujourd'hui. Et ce qui est assez amusant en plus, assez ironique même, c'est qu'ils vont finir par être finalement un équipementier automobile, tu vois, avec leur nouveau CarPlay, et finalement être un acteur un peu mineur de ce segment. Alors, sur le software, les marges seront confortables sûrement s'ils arrivent à trouver un modèle économique. Mais en tout cas, quel gâchis. Moi, j'aurais quand même rêvé d'une voiture Apple.
Ah ben, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est pour ça qu'on leur en veut forcément un peu. C'est qu'ils ne nous ont pas vendu du rêve parce que ils n'ont presque jamais rien dit. Je te dis, à part cette capture de dashboard là où on s'est dit, ah, ça y est, ça arrive. Il n'y a jamais eu de promesse. C'est pas du Elon Musk quoi, qui te montre un truc en disant, regarde, c'est génial, ça va sortir maintenant, tu peux le précommander en cliquant ici, et après, tu attends 5 ans, et il se passe des choses ou pas, on va y revenir. Mais on a tous espéré l'avoir sorti, en ayant ou pas d'ailleurs l'envie de l'acheter. Ça admite, c'est un autre débat. Mais voilà, ça aurait été quelque chose de marquant. Et alors justement, parce que c'est marquant, j'ai fait un peu le job, il fallait quand même écrire l'éloge funèbre de l'Apple Car. Adieu à toi, Apple Car. Aujourd'hui, nous te rendons un hommage empreint de mélancolie, de déception et d'admiration pour tout ce que tu aurais pu être. Tu fus l'incarnation mystérieuse des rêves les plus audacieux, un phare de l'innovation dans la nuit. Pourtant, en ce jour, nous voici réunis pour entonner ton éloge funèbre, celle d'une existence éphémère, fauchée dans l'éclosion de sa jeunesse par les décisions impitoyables du destin et hélas par celle de Tim Cook, gardien d'un empire dont la quête inlassable de la perfection et la détermination ont si longtemps fait merveille. Mais face à toi, cher Apple Car, son cœur s'est endurci et sa volonté a vacillé. Le visionnaire capitaine d'industrie qui portait dans ses mains le futur de la mobilité a dans un souffle choisi de refermer ses paumes, éteignant la flamme d'innovation qui brûlait en toi. Devant l'ampleur de ton ambition, il a reculé. Sa main a tremblé, laissant les ombres de la prudence envelopper ton destin. En ce jour, nous pleurons donc non seulement la perte de ce que tu aurais pu nous apporter, mais surtout une époque où l'audace aurait pu triompher de la retenue. Ainsi, nous te disons adieu, Apple Car, comme à une étoile filante qui aurait traversé trop brièvement le firmament de nos imaginations. Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs, comme le symbole d'un futur qui aurait pu être, et ainsi, dans nos esprits, tu demeureras immortel. Bon, ça fait le job.
Alors moi, je t'ai pas senti aussi inspiré quand Apple a annulé son projet de télé connectée. Hein.
Non, mais...
Mais c'était très beau, Cédric.
Mais la grosse différence, c'est qu'à l'époque, j'avais pas de ChatGPT pour écrire un éloge funèbre. Je l'ai aidé un peu. Mais remarquable, un ChatGPT 4 à qui tu dis « Fais-moi l'éloge funèbre de l'Apple Car qu'Apple vient d'abandonner, machin, etc. » Et il te sort... Pas ça, mais bon, une bonne piste pour arriver à ça. Voilà, c'est dernier clou dans le cercueil. On est bien triste parce que je pense que pour le coup, ils n'y reviendront pas. Tu vois, c'est.
Je pense aussi, ouais. Surtout quand tu vois les années de développement et le budget qu'il faut, ça peut pas être une blague. On arrête. Quoi.
Non, c'est pas aller, on revient. Bah, on sait jamais. Bon, il y a pas que des mauvaises nouvelles parce qu'il y a quand même des choses qui finissent par sortir. Justement, le Cybertruck, 5 ans après avoir été dévoilé. Moi, je me souviens parce que j'ai encore 100$ sur cette machine. La grande chance que certains ont. Comme toi, c'est qu'ils ont pu le tester. Toi, tu es allé aux États-Unis, pas que pour ça, mais aussi pour tester le Cybertruck.
Mais la chance a un prix, Cédric, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Oui. et que tu les as pas aussi facilement. Donc, tu vois, on a fait un petit test sur Mac Forever, mais il a fallu payer assez cher pour l'avoir un petit week-end. Tu vois, on n'a pas pu faire
combien
plus. Mais alors, il faut compter à peu près 1 500 $ les 24 heures, en gros.
Ah oui.
Donc, merci les sponsors, tu vois, parce que sans eux, on l'aurait peut-être pas fait.
Bah, évidemment.
Mais ça vaut le coup, parce que quand même, c'est assez inédit, c'est assez incroyable. Et quand même, je vais te dire un truc, j'ai fait quand même pas mal d'essais auto maintenant depuis quelques années. Je n'ai jamais eu une voiture où je ne pouvais pas faire un tournage tant les gens venaient me voir systématiquement. C'est-à-dire que dès que tu avais une personne dans les 5 mètres, elle venait te voir pour demander des photos, pour demander
évidemment.
Des infos. C'est assez incroyable. Et même, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que ce véhicule, tout le monde le déteste sur Internet, tout le monde l'adore en vrai. Et c'est inexplicable.
Oui, il ne faut pas se fier à ce qui se passe sur Internet.
Alors effectivement, c'est quand même un véhicule incroyable. Je t'avoue que l'impression est étonnante parce que tu l'as vu en photo, tu as l'impression qu'il sort d'un film de science-fiction.
Totalement.
Il a un design qui a tombé.
Le problème qu'on a en photo, c'est l'échelle en fait. On n'arrive pas à vraiment se représenter la taille du truc. On regarde l'empattement, on regarde plein de choses, on se dit bon, ça a l'air balèze. Et en fait, c'est vraiment très gros quoi. C'est un gros bébé.
Alors, c'est gros et pas gros. C'est-à-dire par exemple, l'avant est très bas. Tu vois, il m'arrive à la taille alors qu'on a l'impression que c'est un truc monstrueux qui va t'écraser. Il monte quand même assez haut, il fait presque 2 mètres je crois. Et après, tu as une énorme benne derrière. En fait, il est surtout très long, il fait 5 mètres de long. Mais bon, tu vas me dire, c'est pas pire que certains pick-up maintenant.
Oui.
Il fait surtout 2,40 mètres de large.
La vache.
Donc,
ah, mais je rentre même pas chez moi.
Je pense que les Parisiens, il leur faut
les parkings parisiens, parking, non. Ça. L'avantage, c'est que tu peux rouler sur tout le reste avec. Hein. C'est pas, tu risques d'emporter la borne avec toi. Quoi. C'est...
Mais il se conduit comme une Tesla, donc vraiment assez agréable. En plus, il a plein de petites technos. Tu vois, le volant est déconnecté des roues, donc tu peux vraiment, avec un petit quart de doigt comme ça, tu arrives à le faire tourner. Il a des suspensions pneumatiques. En fait, il a plein de technos que Tesla n'a pas mis encore dans ses voitures. Donc, c'est une espèce de, tu vois, de proof of concept, finalement, pour ce qui va arriver dans les voitures. Les roues arrière directrices aussi. Tu as tout un tas de petites choses assez intéressantes comme ça. Pour autant, il y a beaucoup de déceptions aussi. D'ailleurs, c'était amusant la vidéo parce qu'on a beaucoup rigolé, tu vois, on s'est faussement coupé les doigts sur tout. J'aurais pu nommer la vidéo sans manière de se couper les doigts avec le Cybertruck, tellement tu as l'impression que c'est une voiture Lego qui a été faite par un enfant de 5 ans. Je te mens pas, tu as les tôles qui sont affleurantes comme ça absolument partout,
ah oui, donc,
aussi bien sur le devant.
Un petit coup de ponçage quand même sur les lames parce que c'est...
Et tu comprends pourquoi il ne pourra jamais arriver en Europe. C'est impossible qu'on ait ça chez nous. En tout cas, en l'état, il faudrait vraiment beaucoup de protection derrière.
C'est intéressant parce que moi, j'ai vu sortir les premiers tests, mais qui étaient des tests faits par soit des gens qui l'avaient précommandé, donc des super fans. Puis en plus, il faut dire, la première version disponible aujourd'hui, c'est la plus chère, évidemment. Tu commences toujours par la version la plus chère, donc on est à 100 000 $ et au-delà. Donc c'est des fans, et puis des fans qui ont les moyens, et puis qui n'hésitent pas à mettre 100 000 $ dedans pour avoir le premier Cybertruck du quartier. Donc évidemment, on imagine bien qu'ils ont un a priori favorable, tu vois ce que je veux dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, je vois sortir des tests de gens qui sont soit des gens qui testent des bagnoles. Je regardais celui dans le Wall Street Journal, d'un type qui teste des bagnoles depuis 30 ans, et qui quand même a pris un kiff terrible sur la côte ouest à l'avoir pendant 3-4 jours, et en disant c'est quand même un truc très différent de tout ce qu'on a connu jusque-là. C'est un truc qui est construit comme un sous-marin, c'est-à-dire que c'est d'une solidité absolument monstrueuse. Alors, il a quand même eu des soucis, il s'est embourbé, mais c'est une voiture qui a l'air fun à conduire. Et puis, par rapport à un pick-up normal, qui est souvent une grosse voiture, mais qui fait du bruit, etc., ça a l'air d'être un tapis volant sur autoroute, quoi.
Ouais, il a réussi à rendre un pick-up un peu attrayant, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Tu vois, c'était de la voiture d'agriculteur ou voilà, pour se la jouer un petit peu aux États-Unis. Hein. Mais en fait, on était trois, tu vois, avec des profils très très différents. Et donc, c'est un petit peu comme, tu sais, le casque d'Apple, là, le Vision Pro qu'ils ont sorti il y a pas très longtemps. En fait, les 24 premières heures où tu l'as, c'est un peu la révélation. Tu trouves ça assez incroyable, tout est fou en fait. Et petit à petit, l'émotion retombe un peu dès que tu reviens à la raison. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses en fait, qui te disent bah, finalement, cette voiture, elle est assez inédite en termes de design. C'est vrai qu'elle est construite d'une façon assez incroyable. Il y a beaucoup de technologie quand même, donc ça passionne le geek qui est en nous. Mais après, c'est très difficile de se dire j'en veux un à la sortie. Parce que vraiment, tu te demandes en fait qui a besoin de ça et surtout qui a besoin de s'embêter avec ça parce que c'est quand même un monstre.
Logiquement, en fait, le vrai marché, c'est les gens qui ont besoin d'un pick-up. Ils sont nombreux aux États-Unis. Hein. C'est, tu vois, si t'as une entreprise de travaux publics, de jardinage, de tout ça, voilà, tout à coup, t'as un véhicule à l'arrière duquel t'as une pompe pneumatique pour tes outils. Enfin, tu vois, c'est un truc très utilitaire, en fait, dans l'esprit, mais avec un design qui ressemble pas à tout le reste du marché, tout à coup.
Oui. Cela étant, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que ça remplace plus le classe G dans les beaux quartiers que
le classe G, rappelons, c'est
de l'agriculteur, tu vois.
Ouais, le classe G, c'est le 4x4 de très grand luxe, très carré de Mercedes, très carré et très cher. Le Cybertruck est une affaire à côté. Oui, c'est sûr. On voit, je sais plus qu'est-ce que j'ai vu, Lady Gaga en a acheté un. Enfin, c'est mais avec la sortie des modèles suivants, on rappelle. Hein, au lancement, quand ils l'ont dévoilé, ils parlaient d'un prix de départ, là aussi, autour de $40,000. Donc le prix d'un pick-up normal, j'ai envie de dire, mais avec quand même des specs qui mettent un peu la honte à tout le reste, à tous les autres pick-up. Mais on n'en est pas là. Je suis d'accord que là, pour l'instant, c'est quand même des gens qui ont 100 000 à mettre dedans, et puis des gens dont ça ne va probablement pas être la première voiture, en fait.
Non, mais en fait, après, tu peux te demander, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose de révolutionnaire dans le milieu des pick-up qui ferait que tu le veux ? C'est-à-dire que ce qui fait la force de Tesla, c'est le réseau de superchargeurs. Donc là, oui, effectivement, par rapport au F-150 électrique, au Rivian et tout, c'est vrai qu'il y a cet atout-là majeur, mais il n'a pas une autonomie incroyable par rapport à la concurrence, par exemple. Il a beaucoup de puissance, on l'a vu, on fait des 0 à 100 face à une Porsche, mais est-ce que ça sert vraiment quand tu veux un pick-up
la puissance sur un pick-up, elle sert d'abord à tracter, quoi. Mm-hmm. Et là, tu peux emporter ta caravane.
Le marché est quand même peut-être un peu limité, mais pourquoi pas, tu dis pourquoi pas, effectivement, et quand le prix baissera, ce sera pas mal. Il y avait aussi tout le côté un peu off-road, tu sais, on l'avait vu pas mal, et il y a beaucoup de vidéos là qui sont sorties. Et on voyait le Cybertruck était planté dans la neige sur des petites pentes. On se disait, mais quand même, c'est bizarre ce truc. Soit il est trop lourd, soit il a des défauts. Et en fait, j'ai trouvé pourquoi. C'est parce que tu ne peux pas bloquer le différentiel, c'est pas disponible. En fait, il y a beaucoup de choses pas disponibles sur cette voiture. Ça fait quand même presque 6 mois maintenant qu'il est sorti. Et tu as par exemple pas Tesla Vision. C'est-à-dire que tu n'as pas de conduite autonome, tu n'as pas le parking non plus, donc tu dois uniquement te fier aux caméras. Heureusement, maintenant, ils ont mis une petite caméra à l'avant.
Ouais.
Et en fait, au quotidien, il n'est vraiment pas pratique pour l'instant, en tout cas, même sur l'autoroute. Tu vois, j'ai trouvé que sans la conduite autonome, fallait bien le garder au centre de la voie parce que tu es à 2,40 m, donc tu n'as pas le droit à un petit écart.
2,40 m.
Et en fait, même le propriétaire me disait... que lui n'avait pas imaginé quand même les contraintes derrière. Pourtant, c'était un vrai fanboy, hein, tu vois. Donc, il n'était pas si emballé que ça. Il restait très emballé par la hype autour de ça. J'ai l'impression qu'en termes de véhicule... Et moi, c'est un petit peu ce qui... J'ai testé le Rivian, tu vois, l'été dernier. Mm-hmm. Et j'ai été beaucoup plus hypé par le Rivian parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de choses un peu plus... justement un peu innovante. Par exemple, tu as un compresseur directement dans le coffre, tu vois. Tu peux directement
remonter des pneus
depuis la voiture. Là, par exemple, dans le Cybertruck, c'est un truc tout bête, mais tu vois, j'avais un sac et je ne savais pas où le ranger. Parce que si tu le mets dans la cabine, il se voit de l'extérieur. Si tu le mets dans la benne, il faut à chaque fois que tu ailles ouvrir la ridelle et tout, c'est un peu long. Mm-hmm. Et sur le Rivian, tu as un petit tunnel qu'ils ont fait, tu vois, en dessous des sièges pour mettre tes affaires un peu propres, un peu, voilà. Et il y a plein de petites choses comme ça rigolotes dans le Rivian. Je te donne un autre exemple. Dans le Rivian, tu as une enceinte qui se recharge en permanence, c'est-à-dire que par exemple tu vas camper ou tu sors avec tes gosses, l'enceinte elle est chargée, elle est connectable en Bluetooth et puis elle marche tout de suite. Tu as la même chose dans la porte, tu as une petite lampe torche, ils ont mis des kits de survie, enfin tu as l'impression que c'est une voiture qui est un peu plus la Tesla du pick-up que finalement le Cybertruck, qui est un peu une espèce de délire d'Elon Musk, mais tu sais pas si en termes d'usage, il y a beaucoup d'usages qui vont vraiment en découler, d'usage innovant, hein, je parle. Sauf un truc quand même que je trouve très très cool, c'est qu'il te sort quand même des grosses puissances électriques.
Oui.
Et que ça, connecté à un Tesla Powerwall et un système, tu sais, avec tous les panneaux solaires Tesla, ça te permet, alors c'est le gros truc aux États-Unis, il y a pas mal de coupures de courant, il y a des endroits, etc., ils sont déconnectés du réseau, où en fait la voiture fait un petit peu office de réserve de batterie.
C'est l'onduleur de la maison, c'est le truc qui s'assure que la lumière ne s'éteint pas. L'autre grosse actualité du moment, c'est c'est que, enfin d'ordinaire, ça c'était avant, on va s'en parler, avant le marché de l'automobile c'était un truc qui était ponctué par les salons, par Paris, Genève, Francfort, etc., etc. Et cette semaine-là se tenait le salon de Genève, moi j'y étais pas, mais apparemment tous ceux qui y étaient ont dit on est au-delà du décevant, c'est-à-dire que ce n'est plus le salon de Genève, c'est une espèce de showroom avec 10 constructeurs.
Oui, alors il s'est passé un peu la même chose dans la tech, rappelle-toi, il y avait beaucoup de salons,
oui.
On était beaucoup autour d'Apple, mais
oui.
Il y en a pas mal qui ont fermé leurs portes aussi. Le dernier mondial de Paris n'était pas incroyable non plus en termes de constructeurs, il y avait beaucoup de Chinois, un peu de Français, mais c'est vrai que c'était pas glorieux. Et là, c'est vrai que je n'ai jamais vu, tu vois, ça fait au moins 10 ans que je vais, ou 10-15 ans que je vais au salon de Genève, c'était la grande messe européenne des véhicules, et là tu as...
Puis surtout, c'était le rendez-vous où les constructeurs... venaient pour dévoiler leur nouveau modèle. Et ça, c'est fini, c'est terminé.
Alors en fait, ce salon s'est fait covider, hein, disons-le,
oui,
clairement.
Totalement.
Il était quasiment prêt à ouvrir et puis ils l'ont fait fermer au dernier moment. Et en fait, un salon comme ça, ça s'amortit très difficilement. C'est-à-dire qu'en gros, l'édition d'avant, si elle n'a pas lieu, la suivante, il y a très peu de chances qu'elle ait lieu. Parce qu'ils n'arrivent pas à tourner, ils n'ont pas un an de trésorerie derrière eux. Donc c'est un petit peu compliqué aussi. Donc ils ont fait un petit partenariat avec... Dubaï pour arriver à faire une édition, tu vois, l'an dernier, qui a pas trop mal marché, mais enfin bon,
le salon de Genève de Dubaï, ou du Qatar.
Je veux pas dire de bêtises, mais je sais plus, c'est un détail. En tout cas, il y avait de l'argent, c'est ça qu'il faut retenir.
Oui.
Mais c'est vrai que cette année, il y avait un hall en gros, et t'avais Renault, voilà, et puis t'avais quelques constructeurs chinois, il y avait BYD, etc. Mm-hmm. Et t'avais Lucide aussi. En fait, il y avait quand même quelques nouveautés sympas. Moi, j'ai quand même passé une belle journée presse parce qu'on était un peu moins. Il y avait quand même des grosses nouveautés. Mmh. Et du coup, on a pu quand même un petit peu s'amuser, surtout dans l'électrique, tu vois, où c'est vrai que les nouveautés, des fois, elles sont assez concentrées dans l'année. Donc là, j'étais quand même content de voir la R5, on va en parler après. Mais il y avait quand même des choses assez incroyables. Il y a Lucide qui est venu avec leur SUV Gravity qui vient d'être présenté. Donc c'était une belle exclue aussi, d'ailleurs. Et après, il y avait des petites choses un petit peu à gauche, à droite. Il y avait la nouvelle Dacia Spring. BYD est venu avec des choses assez intéressantes. MG aussi, qui ne sont pas forcément commercialisées chez nous parce qu'il y avait beaucoup de copies, tu vois, on va pas dire de copies, mais d'inspiration. Européenne, donc je suis pas sûr qu'ils arrivent tout à sortir. Mais les Chinois, tu sens que quand même, dès qu'il y a des moyens de se mettre un petit peu en valeur parce que les Européens ou les Américains ne sont pas là, ils en profitent et c'est vrai que du coup, ça leur attire un petit peu la lumière.
J'ai lu un truc sur MG qui aurait dans ses cartons une vraie voiture pas chère, quelque chose de qui serait...
C'est impressionnant, MG. Hein.
Ah, ça va très vite. Hein. Oui, c'est... Moi, j'en vois de plus en plus, c'est assez frappant.
Oui, et là, ils sont venus avec deux berlines, sorties un peu de nulle part. Et alors, tu leur demandais si ça allait arriver en France ou pas. Ils étaient un petit peu hésitants. En fait, le problème de MG, c'est qu'effectivement, ils arrivent à faire des voitures pas chères, correctes, à peu près. Mais tu vois que sur les grandes berlines, ils n'ont pas beaucoup d'autonomie avec des grosses batteries.
Ouais.
Donc, c'est le problème qui est récurrent chez les Chinois en ce moment, BYD aussi. Et du coup, c'est vrai que ces véhicules qui coûtent cher, parce qu'elles ont des grosses batteries, qui sont assez lourdes, ne sont pas très concurrentiels encore chez nous. Donc, je pense que ça va mettre un peu de temps. Par contre, sur les petites voitures, donc, qui n'ont pas besoin de grosses batteries, qui n'ont pas besoin d'une grosse autonomie, ils peuvent nous faire mal. Mais on va en parler juste après. Eh ben écoute, nous les Français, on se débrouille pas si mal finalement.
Oui. Et puis alors, nous, on fait ce qu'on dit. C'est-à-dire que voilà, le Salon de Genève, c'était l'occasion pour Renault, ça y est, enfin de dévoiler pour de vrai le design définitif de sa R5, annoncé il y a 4 ans. Là aussi, c'était juste avant le Covid, je me souviens, tiens, de ce sujet que j'ai fait. Et alors, c'est intéressant parce que, moi, la question que je me pose, c'est évidemment, c'est est-ce que la nostalgie suffira ? Parce que les jeunes générations, ils ne savent pas ce que c'est qu'une R5, hein, je te mets à l'aise, ils n'ont jamais vu une, ils ne voient pas à quoi ça ressemble. J'étais assez frappé par le choix, justement, de Renault, qui montre partout des images d'une Renault 5 jaune, ce qui est gonflé, mais il se trouve qu'à l'époque, il y avait plein de Renault 5 jaunes. Moi, j'ai pris mes premiers cours de conduite dans une Renault 5 jaune. Alors, c'était pas du tout la même, hein, je vous mets à l'aise tout de suite. Parce qu'à l'époque, c'était une petite voiture pas chère. C'était quand même, je crois, la voiture la plus vendue en France pendant près de 15 ans, la R5. C'était un truc, il n'y avait que ça. Et donc, c'est intéressant qu'il l'ait fait et sans bâtardiser le truc, sans ne reprendre que le nom pour en faire. Tu vois, un peu comme la Mustang de Ford, où elle est très bien, la Mustang électrique, mais c'est pas une Mustang. Enfin, on va pas se mentir. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, qui l'as vu de près ?
Écoute, quand Luca De Meo disait que quand il était arrivé chez Renault, il avait vu un vague proto au fin fond d'une armoire et que ça intéressait personne Et tu te dis quand même, par rapport à ce qu'ils en ont fait aujourd'hui, le travail est assez incroyable. Est-ce que la nostalgie suffit? Clairement pas. Il faut qu'il y ait d'autres arguments. Le prix, les performances, le logiciel aussi maintenant qui est très important. Et en fait, quand tu vois d'où vient Renault avec son Airlink de la Zoé, et à ce qu'ils sont aujourd'hui avec une voiture, donc ils nous promettent à 25 000 euros hors bonus, donc ce qui est quand même pas trop mal, avec du Android Automotive, avec une autonomie, on va dire, quand même correcte, parce que ça, c'est entre 300 et 400 km, donc c'est pas mal pour une petite citadine. Et surtout, c'est pas juste beau à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est plein de petits raffinements. Même s'il y a de l'économie, tu sens qu'ils ont énormément travaillé dans les petits détails, il y a des petits coques gravés partout de ces façons un peu Jeep. Moi, j'ai jamais vu. Vraiment pareil de mémoire sur un salon, une espèce d'unanimité comme ça de la presse face à un véhicule qui est même pas sorti, tu vois, où rien que la fiche technique, alors on va voir, hein, après il y a quand même des petits points noirs malgré tout, mais quand même globalement c'est vrai que quand tu regardais les européennes jusqu'à maintenant, c'était assez pas mal, mais
oui.
Tu vois, et là le mail il peut arriver quand même un peu tard, il y a quand même beaucoup de choses avant le mai, quoi.
Mais quoi, dans le design, dans la fiche technique, dans quoi?
Alors aujourd'hui, moi je trouve que ils ont quand même un savoir-faire sur l'électrique. Hein. Renault, ça fait quand même plus de 10 ans qu'ils en font. Donc ils commencent à maîtriser certaines technologies. Alors on les retrouve pas toutes. Par exemple, la Zoé, tu sais, elle est chargée en 22 kW en courant alternatif. Alors ça parle peut-être pas forcément aux gens comme ça, mais ça veut dire que quand tu le branches sur une petite bande de village, tu peux quasiment avoir de la charge presque rapide. C'est-à-dire en 2-3 heures, tu peux charger complètement la voiture. Alors là, ça y est pas, tu vois, sur ce véhicule.
Oui, mais c'est 11 kW. Donc c'est pour une borne domestique, dirons-nous.
Ah, exactement. Mais sur la charge rapide, ils sont pas si mauvais. C'est-à-dire qu'ils sont dans la moyenne en fait du secteur. C'est-à-dire que cette voiture, tu peux en fait à peu près la recharger à 80% en 30 minutes. Donc en fait, même avec une autonomie moyenne, c'est-à-dire entre 300 et 400 km, aujourd'hui, tu vois, c'est moyen, tu peux quand même envisager des grands trajets, ce qui était quand même plus compliqué avec une Zoé qui chargeait à 50 kW, etc. Donc ils ont réussi à passer ce gap en se disant, on fait une citadine, mais qui a quand même de la recharge rapide. Et aujourd'hui,
oui, mais
en fait,
attention,
sur le marché,
parce que
il n'y en a pas beaucoup.
Si j'en crois ce que je lis chez nos camarades de Frandroid, la version de base à moins de 25 000 euros, elle n'aura pas de charge rapide.
Ouais, ils n'ont pas pu s'en empêcher, c'était comme sur la Zoé, c'est-à-dire que tu as des Zoé sans CCS, tu sais, tu auras aussi des R5 sans CCS. Alors le problème, c'est qu'en fait, on ne connaît pas la grille tarifaire finale,
oui,
c'est-à-dire
évidemment.
Combien il faudra mettre pour avoir la charge rapide, est-ce que ce sera 1000 balles, donc dans ce cas-là, c'est négligeable.
Il faut le faire
absolument. Est-ce que ce sera 3 ou 4 000 Et c'est vrai que c'est un peu risible aujourd'hui de se dire, j'ai une voiture qui ne charge qu'en 11 kW en courant alternatif.
Ah ouais, c'est pas possible.
25 000 balles, quoi. C'est pas possible.
Frandroid qui souligne d'ailleurs avec raison, qui dit, s'ils font ça, on va encore avoir des espèces de fiasco médiatique. Avec des sujets en disant, alors j'ai fait Paris-Biarritz avec la nouvelle R5, ça m'a pris 2 jours. Bah oui, mais si vous n'avez pas de charge rapide, faut rester chez vous. Enfin, je veux dire, ça ne peut être qu'une deuxième voiture, en tout cas pas une voiture de grand trajet, quoi. Faut pas se mentir. Mais c'est vrai qu'il y avait la Zoé. Il y avait aussi une Mégane, non, qui avait pas de charge rapide sur son modèle
la
de
première
base.
Mégane. En fait, ils ont fait l'erreur sur quasiment tous leurs modèles. Après, la question, c'est qu'est-ce que ça représente dans les ventes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les voitures électriques, ils ont de la chance. C'est-à-dire que les gens qui achètent ça achètent quand même plutôt des voitures un peu équipées. Donc, il n'y en a pas tant que ça, tu vois, des Zoé ou des Mégane qui n'ont pas la charge rapide. Mais cette voiture, c'est censé être la démocratisation, c'est-à-dire que la version de base, elle aurait pu suffire à toutes les entreprises, etc.
Totalement.
Donc on va voir. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'avancer. Peut-être qu'ils vont faire machine arrière sur certains trucs, peut-être qu'ils vont baisser les prix, on va la voir. Mais tu sais, quand même, 25 000 euros sans bonus, ça veut dire qu'en gros, 21 000 euros avec le bonus.
On est en train de toucher les 20 000 euros là, oui, c'est pas mal.
Ouais.
C'est
donc
pas
on
là,
est
c'est...
au niveau de la Spring avec une finition qui est nettement meilleure que la Spring.
Ou de la nouvelle C3, qui a l'air de mettre un peu tout le monde d'accord sur ce segment de prix-là. J'ai très envie d'aller la voir de plus près, la C3. Autant la Spring, bon, ok, c'est une Spring. Autant la C3, j'ai l'impression qu'ils ont bien travaillé, en tout cas bien mieux que sur les premières, les C4 électriques, etc. Où c'était un peu... On avait l'impression que les choses c'était un peu vite fait, quoi, dans l'ensemble.
Alors, il y a quand même... un truc, Cédric, que la C3 n'a pas, c'est Android Automotive. Et d'ailleurs, j'ai publié une vidéo, tu vois, le soir, on fait notre tournage, là, sur la connectivité de la R5. Mais écoute bien ça. Donc, il y a quand même Android Automotive, donc le système de Google. Tu as du streaming vidéo, derrière. Donc, tu as MyCanal, tu peux aller sur YouTube, etc. Il y a plein de services qui vont arriver. Tu as des applications, tu as des jeux aussi. Tu vas pouvoir jouer même à plusieurs dans la voiture parce qu'on a un double écran quand même, deux écrans de 10 pouces, qui est quand même assez fou. Tu as aussi la clé sur smartphone. Tu vois, ça, c'est une petite exclue. Ils n'en ont pas trop parlé, mais tu vas pouvoir te passer de clé physique sur cette R5. Tu as un vrai planificateur d'itinéraire, ce qu'on n'a pas la C3. Enfin, en tout cas, celle...
Oui, il faut une app, en plus, enfin, sur le modèle de base.
Ouais, c'est très compliqué. Oui. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la connectivité, pour moi, c'est au cœur de la voiture électrique parce qu'on a besoin, tu vois, de programmer sa charge, de faire tous ces trucs comme ça. Et là, vraiment, Renault, ils sont très très forts. En fait, pour moi, c'est ça qui est incroyable dans cette voiture, c'est que je trouve que Renault a été à peu près bon partout, pas parfait, mais à peu près bon partout. Et c'est une voiture qui est très cohérente. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de véhicules, même chinois, toi, qui sont pas chers. Bah, tu prends une MG4, elle a pas de planificateur d'itinéraire. Ça, tu la donnes à ta mère, tu sais pas ce qu'elle va faire avec. Et donc ça, c'est vous. Il y a le plug and charge, très important aussi. Tu arrives sur la borne Unity, oui. Tu n'as pas à badger. C'est-à-dire que tout de suite, c'est reconnu, tu vas te charger. Et donc, mis bout à bout, tu vois que tous ces trucs, tu te dis, bah, finalement, en fait, à ce prix-là, tu as quand même un véhicule presque un peu haut de gamme, oui. Presque un petit peu cochu.
Et puis avec un design qui donne envie, quoi. C'est pas...
Le design est assez incroyable. Ah ouais, je trouve qu'ils n'ont pas fait tellement d'erreurs. Même. En plus, elle est très, très courte. Hein. Elle fait moins de 4 mètres. Elle est quand même très logeable. Tu as un coffre 326 litres, donc c'est vraiment bien pour la catégorie. Moi, je dirais qu'il y a deux petits défauts, tu vois, juste peut-être pour conclure. Il n'y a pas de one pedal de conduite à un pied. Tu sais, maintenant, tu peux conduire juste avec un pied.
Dommage,
il
n'y
a pas jusqu'à l'arrêt complet. Okay. C'est très dommage. Et il n'y a pas de fringues, c'est-à-dire de petits coffres à l'avant. Moi, j'aime bien pouvoir mettre mes capsules, devoir enlever tout ce qui est dans le coffre. Voilà, avec ça, j'aurais dit que c'était la perfection, mais bon, la perfection n'existe pas.
Mais il y a un truc qui m'amuse beaucoup dans le design, mais c'est un truc de vieux, c'est-à-dire que le fait que de toute façon toutes les voitures aient connu un embonpoint depuis 20 à 30 ans fait que la R5, modèle de base, ressemble un peu à une R5 turbo de l'époque, tu sais, avec ses entrées d'air sur les côtés.
C'est ça.
Et voilà, alors là, par contre, on est dans la nostalgie à plein. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je m'attendais à ce que, tu vois, à côté de la nouvelle R5, ils mettent une ancienne, par exemple. Enfin, je sais pas, qu'on fasse un peu de l'avant-après. Et ça, ils l'ont fait,
mais dans le fond du salon.
Elle était
dans le fond, ouais. Elle était un peu cachée. Mais moi, je pense que, tu vois, même moi, je suis presque un peu jeune pour l'R5.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est presque la voiture de vraiment quand j'étais tout petit.
Ouais.
Et finalement, ça va aider effectivement les gens, voilà, de l'âge de mes parents, etc., peut-être à se dire, tiens, ça me rappelle un petit peu ma jeunesse. Mais je pense quand même que ce design est un peu atemporel et qu'il a plu à l'époque. Et comme la Fiat 500, finalement, ils ont réussi à faire une nouvelle proposition qui marche très très bien avec les codes de maintenant,
ouais.
Et que finalement, ils peuvent surfer tout à fait sur... comme si c'était une nouvelle voiture, finalement.
Oui, totalement. Et ils ont peut-être raison, d'ailleurs, de le prendre comme ça, parce que sinon, ils vont le vendre qu'à des gens qui n'ont pas forcément besoin d'une petite voiture. Ce que je voyais aussi, c'est les déclarations de Luca De Meo, donc le patron de Renault, qui appelle à un Airbus de la petite voiture électrique, en gros, à une alliance des constructeurs européens pour arriver à produire ensemble des plateformes justement pour arriver à endiguer la concurrence chinoise. C'est ça qu'il a à l'esprit.
Ah oui, et puis il y a un problème d'échelle aussi. Quand tu vois ce que produit BYD et ce que va produire Renault, même en vendant beaucoup des R5, c'est sûr qu'ils ont du mal à être compétitifs aussi. Alors, moi, je trouve qu'il est assez fair-play, Demeo, parce qu'il est moins agressif vis-à-vis de la concurrence. Il trouve que c'est très, très bien. Mais il dit aussi qu'on devrait être un peu solidaire en Europe, qu'effectivement, on devrait avoir des visions aussi politiques. Et je pense qu'il a raison de le faire, parce qu'aujourd'hui, là, les batteries qui sont quand même dans toutes nos voitures sont encore chinoises. Donc finalement, les Chinois, s'ils ne tombent pas d'un côté, ils tombent de l'autre. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant quand tu es constructeur automobile, c'est que tu n'as pas juste envie d'être un assembleur de produits chinois.
Oui.
Déjà qu'ils ont les Américains pour le software, tu vois, ça commence à faire beaucoup de dépendance. Mais bon, la voiture, c'est un monde de dépendance, donc autant être dépendant de produits qui sont un petit peu produits chez nous, si on veut garder de l'emploi aussi.
De gens qu'on connaît et de voisins, mais ça, c'est aussi un écosystème qui est en train de se mettre en place. On le voit bien avec les usines de batteries, avec pourquoi pas les mines de lithium qui vont ouvrir ou rouvrir. Enfin, c'est-à-dire que tout à coup, on est en train de créer un écosystème pour la deuxième moitié des années 2020, quoi.
Point, c'est qu'on a quand même du potentiel, effectivement. On commence à trouver du lithium, on commence à se dire, tiens, on peut le recycler, on peut presque tourner en circuit fermé. On a les compétences, les moteurs électriques, on en fait depuis quand même pas mal d'années, et puis on est quand même des bons constructeurs. On a quand même gardé de la production en Europe, donc on a quand même toutes les armes pour le faire. Il faut juste pas se tirer une balle dans le pied là maintenant, quoi.
C'est intéressant parce que je suis en train de faire tout plein de recherches pour un livre que je suis en train d'écrire. Qui, je peux vous donner la date du lancement, ce sera le 20 septembre. Alors maintenant, il faut que je me presse. Et du coup, je cherchais des choses sur l'historique de la voiture électrique. La voiture électrique, c'est quand même un truc incroyable. C'est-à-dire que je suis allé faire plein de recherches sur l'histoire de l'innovation. Et je te la fais très simple, des innovations qui sortent et la courbe part, tu vois, tout en haut et à droite tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme exemple de ça ? Le four à micro-ondes, par exemple. Et puis t'as des choses qui sortent et puis c'est un peu plat parce que c'est très cher au début, parce que voilà, parce que c'est peut-être pas le bon moment même dans la société pour que ça arrive. Lave-linge, lave-vaisselle par exemple, ça a mis du temps, mais ça a explosé un au moment où les prix sont tombés et puis deux au moment où dans les couples tout le monde s'est mis à aller travailler. Bah oui, bon. Et la voiture électrique là-dedans, c'est une curiosité, c'est-à-dire que on a commencé à avoir des voitures électriques à la fin du 19e siècle. Qui se sont vraiment vendus. Il y avait un vrai usage. Alors, c'était des batteries au plomb, ça allait pas loin. J'ai ressorti des pubs, c'est génial. On a l'impression, un siècle plus tard, de ressortir les mêmes arguments. Le constructeur qui dit, non, mais pensez vraiment au réel usage que vous avez de votre voiture. En fait, vous n'allez jamais vraiment très loin. Vous n'avez pas besoin d'aller ni très loin. C'est vraiment très bien. Et je suis tombé de ma chaise. La première voiture électrique, bon, qui n'était pas vraiment une voiture, plutôt une espèce de tricycle, bon, et ben elle était française, monsieur. Son inventeur, c'était un peu notre Thomas Edison à nous, parce qu'il a inventé tout plein de trucs à côté. Il s'appelle Gustave Trouvé, donc je suis en train de creuser plein de trucs sur Gustave Trouvé. Donc tu as raison, nous avons un très long historique sur la voiture électrique. On aurait tort d'en avoir honte. Et alors, autre chose, et alors on finira avec le salon de Genève, c'est que c'était aussi l'occasion d'un truc dont je pensais que ça n'existait plus, la voiture de l'année. La voiture de l'année, moi je voyais ça tous les ans, tu vois, dans l'autojournal, dans etc., etc. La voiture de l'année, c'est un jury de journalistes qui se rassemble et qui donne un prix, enfin, qui ont une shortlist, enfin, c'est compliqué, c'est un peu comme le Goncourt. On se demande parfois comment ça se passe réellement, mais bon, la confiance n'exclut pas.
C'est très européen aussi, comme,
totalement.
Comme concours. Et en plus, il y a des pondérations par pays, donc les pays, on va dire, qui ont le plus de constructeurs et le plus d'habitants sont un peu favorisés, forcément.
Oui, mais sinon, tu finis comme pour le comité international olympique où, si tu veux, l'île de la Barbade a le même vote que la France ou la Chine. Et tu aboutis à des situations assez, comment dire, comme la FIFA. Enfin, bah, allez, taper, voilà, corruption FIFA.
Tu vois, est-ce qu'il y a un vrai profit de ça ? Par exemple, l'année dernière, c'était la Jeep Avenger. Elle, c'est pas forcément bien vendu. Ça en fait pas forcément des ventes derrière. Tu vois, c'est plus
simple. Ça ne garantit rien. C'est pas comme le Goncourt, alors.
Mais par contre, c'est quand même intéressant à suivre parce que tu as quand même. Là, cette année, il y avait quand même des beaux candidats. Hein. Tu avais la Kia V9, tu avais le nouveau 3008 électrique. Ouais. Il y avait aussi le X30 de Volvo qui est très attendu, tu vois. Et on en parlera peut-être une autre fois, mais c'est en train de retomber un petit peu autour de cette voiture.
Dis-moi, qu'est-ce qui se passe autour de Volvo ?
Non, mais le X30, il commençait à être bien testé, tu vois, au début, il n'était pas très cher, etc. Et puis, petit à petit, les testeurs, ils se rendent compte que bah, l'autonomie, c'est pas foufou, qu'il y a plein de trucs qui sont pas incroyables, que l'intérieur est pas dingo, et que finalement, pour le prix, ça commence à être cher, toute cette histoire, pour une voiture ultra compacte. Donc, j'ai vu des tests dithyrambiques au début, puis maintenant, des usagers qui commencent à se dire, mais on s'est peut-être un peu fait avoir, là, on a la voiture, on n'est pas aussi content que ça. Donc, à voir, moi, je ne l'ai pas encore testé, je la testerai bientôt. Mais c'est amusant. De croire que cette voiture, c'était un petit peu le messie, tu sais, de la voiture justement un peu compacte, pas très chère, etc. Et finalement, tu t'aperçois qu'en un an, il s'est passé beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, elle est plus aussi attractive qu'avant. Mais je pense qu'on en reparlera parce que moi, j'ai hâte de la tester, tu vois. Il y a le Fisker Ocean, enfin, il y a plein de voitures comme ça, on a beaucoup fantasmé dessus et puis on en revient petit à petit, quoi.
Et donc, la voiture de l'année 2024 est... La Mégane.
Le Renault Scénic.
Ah, pardon, Scénic, pas Mégane.
La Mégane, c'était il y a deux ans.
C'était il y a deux ans.
Mais c'est quand même une belle victoire pour Renault, tu vois, la R5. Et là, franchement, c'était les rois du salon entre le Scénic et puis la nouvelle R5.
Le Scénic électrique, non.
Alors, Scénic électrique. Et c'est vrai qu'en fait, le Scénic électrique, il n'est pas très cher. C'est-à-dire que ça pourrait être un peu la première familiale qu'on va pouvoir se payer parce qu'il est quasiment au prix du thermique, en gros, un peu optionné.
C'est la première fois qu'une voiture de l'année est électrique ?
Je suis pas sûr. Je crois que bah non, l'année dernière, tu vois, Jeep Avenger.
Ah bah Avenger, non, t'as raison.
Ça fait quelques années maintenant. Que c'est... D'ailleurs, là, il y avait quasiment que des électriques. Parce que
bah oui, parce que Kia, la BM, ouais. Voilà. Le CHR, il y avait un hybride. Voilà.
Chez Toyota, parce qu'ils font
évidemment, ça faire que ça.
Il y en a un d'électrique. Hein, je l'ai testé, le BZ4X, mais. Ouais, il a pas mal de problèmes de jeunesse, on va dire. Ils ont baissé les prix, mais je ne sais pas si ça va vraiment se vendre. On en voit pas mal aux États-Unis, par contre, étonnamment. Mais je pense qu'on en reparlera. Donc, ouais, vraiment, moi, je trouve que c'est quand même une belle victoire pour Renault. Parce que c'est... Alors, moi, je le teste, là, tu vois, il y a les essais presse au moment où on fait cette vidéo d'ici une ou deux semaines. Donc, je te dirai un petit peu ce qu'il en est. Mais sur le papier, en tout cas, il y a une bonne autonomie. Il n'est pas très cher. Il y a aussi tous les services Google, enfin, tout le système Renault
Google Auto,
qui marche très, très bien. Il recharge a priori assez vite et c'est un Scénic, c'est-à-dire qu'il correspond à peu près à l'usage moyen du français.
C'est une bonne familiale moyenne qui sert tous les jours et qui permet de faire de la route. C'est intéressant qu'il y ait une grosse compète entre lui et la BMW série 5. Mais non, de fait, c'était le salon de Renault, en fait, le salon de Genève cette année.
Oui, oui, totalement. Mais la BM a eu aussi beaucoup de points parce que effectivement, les Allemands ont aussi beaucoup de poids sur cette sur ce vote.
C'est une grosse, grosse pondération. Plusieurs chiffres que j'ai vu passer, ça y est, à la fin de l'année ou en tout début d'année 2024, la France a passé le million de voitures électriques sur ses routes. C'est un joli cap. Alors évidemment, ça ne fait que 2,5% du parc roulant, mais ça fait bien plus sur les ventes du neuf. J'ai vu aussi, parce qu'il y a eu un peu de... Enfin, il se passait pas mal de choses. Depuis que l'Europe a dit que la fin du thermique pour les voitures neuves, c'est 2035, il y a ceux qui disent OK et puis ceux qui ne sont pas d'accord. Des parlementaires allemands essayent de faire passer une loi pour s'y opposer ou de... Enfin, bref. Et justement, encore une fois, Luca De Meo, très fair play, qui dit non, mais voilà, la loi, c'est la loi et on se conformera à la loi. Bon, ça ne va pas forcément être facile. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il appelle à son Airbus, tu vois. En gros, c'est dire, voilà, il faut mettre les moyens en face pour pas que ça nuise complètement uniquement à l'industrie européenne. Ça va être quand même 5 ou 10 années qui vont être... Enfin, on est au-delà du crucial, parce que ce qu'on refuse de considérer, c'est qu'il y a des constructeurs qui pourraient disparaître.
Oui, mais je pense qu'il y en a qui vont disparaître de toute façon, puisque c'est dans la logique des choses aussi. Hein. Il faut s'adapter ou mourir. C'est le darwinisme moderne. Après, il faut voir aussi les marchés qui sont envisagés. C'est vrai que, par exemple, Renault est un constructeur qui vend quand même essentiellement en Europe, bon, un peu en Russie, bon, maintenant un peu moins, un peu en Amérique du Sud. Mais c'est vrai qu'ils ont pas non plus le marché américain. Tu vois, c'est plutôt Nissan qui est là-bas. Et puis, c'est vrai que les Allemands, eux, qui étaient les plus opposés, eux ont un marché mondial et eux, ils ont aussi des pays dans lesquels le thermique a encore de beaux jours. Même si tu vas à Dubaï, il y a quand même pas mal d'électriques. En fait, moi, je suis quand même assez surpris de voir que l'électrique progresse plus vite que ce qu'on croit. Et justement, dans des marchés, on ne s'y attend pas forcément. Même aux États-Unis, où ils font, tu vois, des grands trajets, tu te dis, tiens, les États-Unis, c'est quand même les derniers qui passeraient à l'électrique. Pas du tout. Tu vas en Californie, il y a des Tesla à tous les coins de rue, ils font des grandes distances avec, il y a des chargeurs partout, tu peux payer avec des cartes. Enfin, c'est pas si mal.
Alors, la Californie, pas forcément ce que je disais souvent. Un jour, je suis parti en reportage avec un jeune journaliste. C'est un jeune Jerry, garçon charmant, c'est la première fois qu'il allait aux États-Unis. Il avait 20 ans, je crois, ou je sais plus. Enfin, bref. Et on arrive à San Francisco. C'était pour un reportage là-bas. Je le laisse aller se promener en ville. Je le retrouve 2 heures plus tard. Il me dit, waouh, l'Amérique, c'est génial. Je dis, attends, c'est San Francisco. C'est pas l'Amérique. Je vais t'emmener dans le Wyoming, tu vas voir ce que c'est. Et donc, c'est la Californie, pas forcément très représentative là-dessus, parce que c'est un peu... c'est vrai que moi, je voyais même des photos des freeways à Los Angeles récemment. T'as l'impression que tout le monde est à côté de l'usine Tesla. Enfin, c'est terrifiant. La Model 3,
c'est un phénomène urbain, mais...
est devenu la nouvelle Corolla.
Il faut quand même des grands trajets. C'est-à-dire que c'est quand même un marché test qui est intéressant parce que tu vois une voiture là-bas qui commence un peu, on se dit tiens, elle a fait un petit peu des kilomètres, elle a 100 000 miles, donc à peu près 160 000 kilomètres. C'est quand même des gens qui roulent plus que nous. Et je trouve que c'est intéressant de voir que déjà toutes les grandes villes quand même américaines sont quand même assez équipées en électrique parce que ça a du sens sur l'urbain. Qu'effectivement, tu vas dans le désert, il n'y en a pas beaucoup parce que des chargeurs rapides, il n'y en a pas encore beaucoup. Mais il ne faudrait pas grand-chose. D'ailleurs, il y a des constructeurs qui s'amusent, Jeep, Rivian, là, qui commencent à installer des chargeurs dans la Death Valley, dans des endroits comme ça. Et tu t'aperçois que ça marche. C'est-à-dire que dans la Death Valley, tu vois des Tesla alors que c'est quand même, tu peux quasiment faire 300 km sans voir âme qui vive là-bas.
Sans rien du tout. Oui.
Donc c'est un joli marché de test. Quoi.
Non,
mais ça... tout ça pour dire que l'électrique progresse quand même dans des marchés assez incroyables. Si tu vas un peu dans les pays des Émirats, etc., ils en ont beaucoup, alors qu'ils n'ont aucune raison. Le pétrole est quasiment gratuit.
Aucune.
etc. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Et en fait, l'électrique, je pense que ça dépasse le problème de la contrainte. C'est-à-dire que la plupart des gens qui commencent à se mettre à l'électrique, c'est rare qu'ils reviennent au thermique, malgré toi, certaines études que tu vois passer. C'est plus un stress de pas mal de gens. Et puis aussi un problème, par exemple, moi, je suis beaucoup des gens qui font des aventures en Afrique. Mmh. Et tu vois qu'en Afrique, il y a un vrai problème d'électricité. Oui. Qui se résout pas comme ça, quoi. C'est-à-dire que eux, ils vont pas avoir l'électrique demain, même si potentiellement on peut quand même arriver à les charger avec du solaire, avec tout un tas de trucs, mais ça met une contrainte énorme. Et voilà, il y a des marchés comme ça qui vont encore durer, mais eux, je dirais qu'ils ont beaucoup de marchés d'occasion. Oui. Ouais, on leur envoie aussi beaucoup de véhicules vraiment, aujourd'hui. Ouais. Et effectivement, on a moins de volume aussi qui partent là-bas. Mais en fait, c'est très très intéressant de voir comment évoluent les choses. Et puis finalement, en fait, les constructeurs sont en train de se dire, ah, on nous a peut-être poussé un peu à le faire, mais finalement, il y a quand même de la réponse en face. Les bornes maintenant, tu vois, il y en a un peu partout.
Oui.
Les gens ont plus trop peur d'acheter une électrique. Quand tu vois les gens, maintenant, ils commencent à se dire, ouais, on en voit un peu, donc ça a l'air d'aller. Et quelque part, je pense qu'il suffirait. On est vraiment dans le moment charnière où ça commence à s'enclencher. Effectivement, on le voit dans les ventes. Alors, ça fait le yo-yo avec les bonus. On va en parler après.
Oui.
Forcément. C'est quand même un gros problème tarifaire. Hein. La plupart des gens n'achètent pas neuf aujourd'hui, donc le marché de l'occasion est assez compliqué.
Oui.
Mais moi, je sens quand même un élan électrique mondial assez étonnant, finalement.
Ouais, c'est intéressant parce que à chaque voyage, moi, maintenant, qui est une électrique depuis 3 ans, je me demande le moment auquel, parce qu'ils s'en vendent quand même beaucoup, le moment auquel ça pourrait devenir un problème sur les chargeurs, etc. Bah, j'ai beau chercher, j'attends toujours. Enfin, c'est-à-dire que non. Et puis alors, quand tu as une bonne planification de tes trajets, moi qui ai fait la France du nord au sud et du sud au nord la semaine dernière, ça a été absolument, absolument sans douleur. Bon, on n'était pas dans des périodes de grand départ, etc. Mais je suis toujours frappé. Tu passes toutes les grandes stations d'autoroute. Maintenant, tu vois des chargeurs absolument partout. Avant, c'était, il y avait un chargeur, peut-être deux. Enfin, c'était un peu, il y en avait autant que des pompes à air pour tes pneus. Maintenant, tu vois des magnifiques comme une station bis, tu vois, qui est peut opérer par un Total ou par un Fastned ou par ce que tu veux, où il y a 6, 8, 10, 12, etc. Et de plus en plus, pendant que Tesla rajoute des bornes sur les stations existantes, etc. Enfin, on n'est pas encore au moment où ça devient un vrai souci, quoi.
Non, puis les gens ont un peu abandonné aussi le stress de la recharge, du temps que ça prend. Du nombre d'arrêts aussi, on s'aperçoit, oui, qu'on s'arrête plus finalement que pour charger dès qu'on commence à avoir des enfants,
ah,
des,
oui,
personnes âgées.
Je te mets,
voilà, c'est rare les gens qui disent je fais 1000 km d'un coup sans au moins aller aux toilettes,
non,
tu vois,
c'est, non, prendre un café. Fini, les rois de la route, non, c'est pas. Ouais. Non,
je te
confirme qu'avec 3 enfants et 2 chiens, de toute façon, j'avais toutes les raisons de m'arrêter assez régulièrement.
Mais je suis assez étonné sur les réseaux sociaux de voir à quel point le discours, dès qu'il y a un problème avec les voitures électriques, c'est-à-dire dès que tu relayes quelque chose qui ne marche pas, même si c'est un épiphénomène dans un essai automobile ou dans ta vie, mm-hmm, à quel point ça prend de l'ampleur. C'est-à-dire,
oui,
que tu as des gens qui sont vraiment aujourd'hui très stressés de passer à l'électrique et on a l'impression qu'on leur met le couteau sous la gorge, ce qui n'est pas totalement faux. Hein. Je comprends aussi, tu vois, les centres urbains, etc.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que ça crée quand même un stress dans la population qu'il ne faut pas ignorer non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très réticents dans l'idéologie, pas tellement en pratique, parce qu'après, tu leur montres,
non,
un peu, souvent ils déstressent un petit peu. Quoi.
Non, mais d'ailleurs, c'est le point commun. C'est que la plupart ou l'essentiel de ces gens sont des gens qui n'ont jamais essayé, en fait. Ou essayé pour de vrai, qui sont jamais partis en week-end avec, qui n'ont jamais confronté leur peur à la réalité du truc, parce que la réalité est quand même bien plus douce que ce que la peur pourrait te faire imaginer. Mais c'est vrai, je suis tombé la semaine dernière là, sur un groupe Facebook sur « Contre la voiture électrique ». Enfin, t'imagines ?
Oui, ça existe.
C'est-à-dire que tu n'as pas de voiture électrique et tu vas donc t'inscrire dans un... Enfin, ça avait un côté... Et le problème, c'est qu'évidemment, c'est un groupe qui se fait totalement troller par des possesseurs de voitures qui disent « Bah non, c'est... Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie réalité vraie. Et... » Non, mais ta vidéo d'une voiture qui brûle, c'est la même que tu nous montres depuis 8 mois... Bernard, faut que t'arrêtes maintenant. Et
Mais toi qui aimes bien les recherches historiques, ce serait intéressant, mmh, de voir si à l'époque des voitures, tu sais, quand il y avait les calèches et tout, t'avais un petit peu les groupes de maréchal Ferrand, de nostalgiques de l'odeur du cheval.
Ah,
tu vois,
oui, alors
je pense qu'il a dû se passer quelque chose comme ça. qui a dû être comparable parce qu'en plus tu avais un vrai marché qui, tu vois, aujourd'hui on voit, j'ai vu un reportage l'autre jour sur une grande chaîne qui me disait mais vous rendez compte les pauvres garagistes qui n'auront plus de travail parce que les voitures ne sont plus assez,
oui,
en panne.
Et je, oui, c'est
quand
ça,
même, un journaliste pourrait quand même réjouir que l'on ait moins de frais, que l'on ait moins de garages, même si derrière, effectivement, c'est des gens
qui
vont pouvoir se reconvertir, qui vont peut-être changer de métier, mais ce ne sera pas demain non plus. Mais il y a quand même, dès qu'il y a un changement en fait, de paradigme, il y a tout un tas de stress qui est créé. Et en général, quand le marché est prêt, après, il n'y a plus de problème.
Non, mais c'est intéressant parce que l'argument qui est souvent en creux d'ailleurs sur les Antilles, surtout quand ils ont voix au chapitre, qui sont éditorialistes économiques ou ce genre de choses, c'est qu'en fait tu comprends que la voiture électrique n'est pas un truc désirable pour le marché automobile. Mais c'est pas, est-ce que c'est ça le critère? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, comme je dis souvent, le moteur à explosion n'a pas donné de meilleurs emplois aux chevaux, quoi. Et c'était pas le but. Le but, c'était d'avoir des moyens de locomotion efficaces. Donc, on peut comprendre, mais c'est pas ça le débat. Enfin, c'est-à-dire qu'on va pas s'interdire une innovation sous prétexte que, je sais pas, qu'il n'y a plus besoin de faire de vidange, de changer. Là aujourd'hui, j'en serais sur ma Tesla, à un moment où, si elle était thermique, ce qui est un énorme si pour une Tesla, je commencerai à penser à la courroie de distribution. Enfin, tu vois, toutes ces choses qui n'existent plus. J'ai vu une capture, alors c'est difficile pour avoir cherché de trouver des chiffres là-dessus, sur justement le delta qui existe en termes de maintenance entre une électrique et une thermique équivalente. Alors, il existe, hein, le delta, il est évident. Je me suis payé une révision juste avant la fin de la garantie de ma voiture, mais c'était vraiment par acquis de conscience et je regrette parce qu'en fait ça n'a servi pas à grand chose. Bon, c'était vraiment juste pour me rassurer, mais il n'y avait rien, la révision n'a rien détecté. Mais en dehors de ça, l'entretien il se résume à pas grand chose. J'ai vu un syndicat de professionnels justement de la maintenance auto qui ont trouvé des chiffres venus de Norvège et qui datent de 2019. On n'est pas quand même dans une qualité de data très 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 haute, mais qui t'explique que oui, c'est 50 à 75% en moins. Enfin, c'est-à-dire que bah oui, il se passe beaucoup moins de choses sur une voiture électrique. Il y a très peu de choses à changer, à part les pneus, même pas les plaquettes de frein. Enfin, c'est... là, de ce côté-là, là aussi, mais il y a de la réassurance à faire. Et alors là, pour le coup, c'est pas les professionnels de l'automobile qui vont la faire. Je rappelle toujours, non. La première fois, il y a 5 ans, où je suis rentré, c'était chez Kia, justement, et où j'ai dit, tiens, vous avez un modèle électrique, et où le vendeur m'a dit, oh là là, alors vous savez, l'électrique, c'est particulier quand même. Hein. Ça, c'était pas une entrée en matière terrible, terrible.
Ah oui, c'est assez amusant, mais moi je suis effaré devant même les confrères, tu vois, de la télé, de grands médias qui propagent même des fausses news. Enfin, on a régulièrement sornettes. Des reportages.
Oui, on a vu le même reportage de nos amis d'RTL où mais j'ai l'impression que c'est générationnel.
Un petit peu, oui.
Je crois que c'est un peu aussi, générationnel.
Quand tu as une audience qui voilà, il faut aussi la préserver, donc tu ne peux pas non plus être trop emballé par des nouvelles technologies, tu vois.
Tu peux faire de la pédagogie, tu peux dire, vous allez voir, dans l'ensemble, ça va bien se passer, c'est pas... Voilà. Et puis surtout, on a l'impression souvent dans le discours que c'est des gens qui imaginent qu'on va revenir en arrière. On est forcé d'appuyer sur le bouton. Non, ça, laissez tomber. Ça, c'est fini, c'est terminé.
Avec une petite note rigolote. Il y a un YouTuber, je le nommerai pas, mais il est très rigolo parce qu'il arrête pas de tester plein de voitures, il achète des tanks, etc. Et en fait, c'est amusant, c'est que sa communauté est ultra pro thermique, mais vraiment. Et lui, il s'aperçoit qu'il y a des trucs rigolos en électrique, donc il n'y a pas longtemps, il a acheté une moto électrique, et puis tu le vois, il est dans un champ, il va à fond, il trouve ça incroyable, il fait « Oh là là, les gars, il y a une puissance de fou !» Mais, comme sa communauté, tu vois, faut y aller doucement, au début, la première séquence de la vidéo, il la recharge avec un générateur thermique, qui fait de la fumée, etc., juste pour montrer, tu vois, non mais on n'en est pas encore là, quoi. Mais, mais c'était drôle, tu vois, de voir que, quand même, un peu comme Villebrequin, là, par contre, on peut les citer, qui... voilà, officiellement était ni pour ni contre, mais plutôt contre. Et puis qu'en fait, en coulisses, ils ont des Tesla, qu'ils savent très bien que c'est rigolo, que
non,
là, maintenant, que Sylvain, il est tout seul, il teste les Taycan.
Oui.
C'est très rigolo parce que, de toute façon, on sait très bien ce qu'on kiffe, nous, ils le kiffent eux aussi. Mais tu vois, il y a quand même ce côté où ils pensent quand même à leur public. Et c'est normal, c'est du business.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais en même temps, ça a aussi donné naissance à toute une nouvelle génération de journalistes automobiles, j'ai envie de dire.
Exactement, on va pas s'en plaindre.
On va pas s'en plaindre, pour qui la question se pose même pas, en fait, dans l'ensemble. Enfin, en tout cas, qu'on pas la nostalgie de l'odeur du super, quoi. On disait, ça c'était assez frappant, je voyais tout début de l'année, papier dans les échos, des ventes de véhicules électriques. Le marché de la voiture électrique a fini 2023 pied au plancher. Je dis bon, bah ok, c'est bien. En gros, c'est chez nous 16,8% des ventes se font sur de l'électrique. Ok, super. Et puis là, je vois apparaître d'autres papiers qui disent ah, alors finalement, oulala, ça va pas du tout. Les ventes se sont effondrées en Europe. Que se passe-t-il? En fait, c'est pas tant. Alors, et c'est intéressant parce que là aussi, tu vois les commentaires en disant ouais, en fait, c'était une bulle. Ou ouais, ouais, ça, en fait, c'était les. Le, j'ai encore vu une vidéo aujourd'hui. Non, non, le marché, il avait été. Ça avait été. C'était un peu artificiel. C'était tous les early adopteurs qui ont été les premiers à acheter une voiture. Puis alors, maintenant que l'on l'a acheté, c'est fini. La voiture électrique n'intéresse personne. Je dis, attends, excusez-moi, mais bon. Bon, alors évidemment, le pire n'est jamais sûr. En fait, c'est pas ça l'histoire.
Bah, l'histoire, c'est le bonus. Mais en fait, comme le bonus a changé au 31 décembre, il a changé dans les deux sens. C'est-à-dire qu'avant, tu l'avais, mais après, tu ne l'as plus. Oui. Ça crée un effet, une bulle avant, et puis du coup, un effet de souffle après. Et finalement, bah, l'écart se creuse pile à ce moment-là. Il y a eu la même chose en Allemagne quand ils ont enlevé le bonus. Donc la question, c'est aussi de voir un peu la ventilation sur l'année. Je pense qu'on aura des chiffres un peu plus clairs sur l'année. Ce qui est clair, par contre, c'est que le fait d'avoir enlevé le bonus... Eh ben, tu t'aperçois que les constructeurs en avaient encore un petit peu sous la pédale, sans jeu de mots. C'est-à-dire qu'un constructeur comme MG, tout à coup, il t'a fait un rabais qui est égal au bonus sorti du chapeau, comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le bonus allait quelque part directement dans la poche du constructeur. Finalement, il avait encore un petit peu de marge. Donc là, on le voit avec la R5, etc. Et on arrive à faire quand même maintenant des voitures pas trop chères. Et moi, je reste persuadé, Cédric, que la voiture électrique sera moins chère que la voiture thermique.
Mais bien sûr. Terme,
dès qu'on va arriver un peu à faire baisser le prix de cette batterie, parce que tout le reste n'est pas cher.
Oui.
Donc, on va arriver...
Et puis, en plus, d'arriver à être sur des masses qui font que tu as des économies d'échelle, etc. Et que ce n'est pas la voiture que tu fais en plus de ce que tu faisais jusque-là. Et parce qu'en fait, sur le fond, si on met de côté la batterie, c'est quand même des voitures qui sont plus simples, finalement.
Ben oui, et l'exemple assez amusant, c'est le scooter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu commences à avoir des pseudo-scooters, voilà, après, qui ne sont pas bien carénés et tout ça, mais qui ont à peu près ce qu'il y a dans un scooter thermique, mais en électrique, beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, avec une autonomie, on va dire, assez comparable, pour des prix beaucoup moins chers. C'est-à-dire que tu arrives quasiment à trouver des petits scooters électriques autour de 1000 balles, et c'est des choses qui, en thermique, devenaient extrêmement rares. Et en fait, pour moi, ça amorce très très bien. On a aussi le phénomène un peu sur la voiturette, là, la vie qui est quand même... beaucoup moins cher que les voitures sans permis. Et petit à petit, ça arrive sur la voiture thermique. Donc, en fait, une fois qu'on aura passé cette problématique du prix et maintenant, on commence à passer un peu l'autonomie, le marché va arriver à se remettre. Il ne faut quand même pas oublier que, pour moi, on est encore dans la préhistoire de la voiture électrique, quasiment.
Plus de 15%.
J'exagère un peu.
Souviens-toi, voilà. On était à 2 il y a 5 ans. Hein,
Mais je parle plus sur le plan technologique. Je pense qu'il y a beaucoup d'innovations à venir. Effectivement, je pense que dans 15 ans, ce sera même plus un sujet, tout ça, en fait.
Ah, mais même dans 5, dans 10. Enfin, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi, quand les gens disent « Ah là là, 2035, mais c'est beaucoup trop rapide », oui, il y a peut-être des endroits où ce sera un peu rapide, mais honnêtement, pour des marchés comme les nôtres, enfin, c'est-à-dire que, surtout, on va arriver justement à des questions de prix. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ça coûtera 5000 euros de plus d'acheter une voiture thermique par rapport à son équivalent électrique, je pense que le débat se déplacera de lui-même. D'ailleurs, s'éteindra de lui-même. La question se posera plus vraiment. Et ça, c'est difficile parce que, enfin, c'est compliqué le changement. C'est difficile le changement pour les gens.
Le changement. Et juste pour finir là-dessus, toi, tu n'es pas étonné que beaucoup de gens investissent aujourd'hui encore sur des voitures thermiques, alors avec des gros moteurs, évidemment, c'est un peu des œuvres d'art, ces voitures, mais est-ce que quelque part, ils n'achètent pas, tu vois, une charrue à l'époque de la voiture, quoi.
Moi, c'est terrifiant.
J'ai vraiment l'impression de ça aujourd'hui.
Moi, quand je travaillais justement sur l'efficacité énergétique des voitures, du thermique par rapport à etc., enfin, c'est incroyable. C'est comme si on se chauffait tous avec des bras zéro à la maison. Enfin, ça n'a plus aucun sens en termes juste de consommation d'énergie. Non, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que en fait, tu te mets à considérer que le thermique était peut-être une parenthèse de l'histoire, mais que c'est tellement pas efficace. Je vous rappelle, la moitié quand vous avez n'importe quel moteur thermique, l'essentiel de l'énergie que vous dégagez, elle part en chaleur, elle part pas en mouvement. Donc c'est,
je crois que sur une 2 chevaux qui fait du 5 litres au 100, donc tu dis c'est pas beaucoup.
Ouais,
litre à peu près d'essence, c'est à peu près 10 kWh, je crois un petit peu moins. C'est-à-dire que tu as 2 chevaux, en gros, elle fait du 50 kWh au 100. C'est-à-dire 50 kWh, pour les gens, c'est plus gros que la batterie de la nouvelle R5.
Oui.
Et au 100 km, alors que la R5, elle en a 400. Donc en fait, quelque part, on brûle de l'énergie pour rien, si ce n'est pas pour avancer en tout cas, depuis des années. Donc c'est d'une certaine logique finalement que cette énergie elle soit utilisée à autre chose. Faisons du pétrole autre chose que ça.
Et puis en plus, qu'est-ce que je voyais comme stade intéressant ? C'était 1 litre d'essence diesel, ce que tu veux, pour son acheminement à sa production, avait déjà consommé 4 kW.
C'est ça. Et alors, par contre, qui est intéressant, c'est qu'à Dubaï, par exemple, où leurs centrales sont électriques, donc essentiellement à pétrole, mais ça reste quand même plus intéressant d'avoir des véhicules électriques à Dubaï, parce qu'en fait, à partir du moment où tu centralises la production d'électricité avec du pétrole, tu as un assez bon rendement, tu arrives à avoir des rendements très corrects, et qu'en fait, le rendement est mauvais quand tu commences à mettre de la transmission, voilà, des fluides, etc., dans une voiture. Et finalement, chacun a une petite centrale thermique, c'est pas du tout intéressant, non. Mais voilà, quitte à faire des choses horriblement, autant centraliser, tu vois, la production de pétrole.
Mais là aussi, c'est des choses qui vont les décoiffer en termes économiques. Enfin, il va se passer des choses. Alors justement, évidemment, le dernier argument. Non, mais de toute façon, attendez. Le mieux, c'est d'attendre. Ah bon, mais d'attendre quoi? D'attendre l'hydrogène. Moi, j'y ai cru pendant un temps. Il y a 15 ans, j'allais au Japon, je voyais des voitures avec des piles à combustible et je disais « Ah ouais, ok, ça a l'air intéressant ». Enfin, en tout cas, oui, parce qu'il faut dire qu'il y a 15 ans, on avait quand même des alternatives qui étaient moins séduisantes. Et bon, depuis, ça a quand même beaucoup changé. Et j'ai l'impression que le changement s'accélère. C'est-à-dire qu'on voyait bien l'hydrogène, soit pour des voitures qui ont besoin d'avoir une très grosse autonomie, je pense aux taxis, soit pour le transport lourd, pour plein de choses, pour le fluvial, pour etc., le maritime et l'aérien. Et en fait, on a l'impression que ce territoire est en train de se rétrécir au fur et à mesure. On l'avait vu sur l'automobile, ou même, on avait parlé dans ce podcast, l'air liquide, qui pourtant produit de l'hydrogène, dit « Ouais, non, c'est pas pour la voiture, laissez tomber. » Parce qu'évidemment, c'est trop cher, c'est compliqué, machin, le réseau, enfin tout ça, bref. Et on se dit « Bon, il reste quand même les poids lourds. » Et ben là, je suis tombé sur un papier qui n'est pas très encourageant, dans un magazine espagnol, où le patron de MAN, c'est la filiale de Volkswagen, corrige-moi si je me trompe, qui fait du poids lourd, qui dit « Non, non, voilà, non, l'hydrogène, c'est pas fait pour nous. Enfin, c'est compliqué, les bénéfices sont pas terribles. Finalement, on va produire des camions qui auront des batteries. Ou alors, on va faire quand même beaucoup d'hybrides. Enfin, c'est pas... mais le pur hydrogène pose plus de problèmes qu'il n'en résout. » Et ce qui est intéressant, parce que même dans des endroits très volontaristes et progressistes sur le domaine de la mobilité et de l'énergie, il se passe des choses. Shell, par exemple, vient de fermer toutes ses stations hydrogène en Californie. Alors évidemment, ils étaient encore, c'était encore à peine de l'expérimentation, parce qu'il y a combien de voitures à hydrogène en circulation? Il y en a très peu. Il y a quoi? Il y a deux modèles. Il y a la Mirai de Toyota, et puis, la deuxième ne me revient pas, mais elle me reviendra.
Oui, il y en a plusieurs. Il y a deux japonaises, je crois, et puis oui. Y a les Allemands qui en font un peu. BMW, je crois, en a une aussi. De mémoire, je crois un X3 qui doit être avec une pile à combustible. Tiens, est-ce que tu as déjà conduit une voiture à hydrogène?
Au Japon, non, je ne pense pas.
Moi, j'en ai conduit une, écoute, il n'y a pas si longtemps. C'était la Toyota, d'ailleurs, je crois.
Mais en fait, c'est une électrique.
Alors, écoute, une électrique à côté, c'est une Formule 1, parce que j'ai trouvé que c'était une voiture qui avait tellement de défauts. C'est pas puissant, c'est très lourd. Bon, après, je pense qu'on a déjà énuméré tous les défauts de l'hydrogène, mais comme en fait, elle a besoin d'une petite batterie pour fonctionner, une batterie tampon, en fait, dès que tu vides cette batterie, tu n'as plus de puissance dans cette voiture. Donc, j'ai trouvé que pour une voiture, entre guillemets, moderne et qui nous annonce l'avenir, j'ai trouvé que c'était ni une bonne thermique, ni une bonne électrique. Et ça m'a vraiment déçu. L'hydrogène, en fait, moi, j'arrive pas à savoir. Je pense que pour le transport aérien, en tout cas, si on trouve rien à part le pétrole, ce sera peut-être la seule alternative. D'ailleurs, Jean-Marc,
le but, c'est vraiment d'aller déloger le diesel là où les batteries n'iront pas. Mais il se trouve que le domaine de la lutte des batteries n'arrête pas de s'étendre. Alors, c'est vrai que sur l'aérien,
c'est d'électrifier le transport routier. Oui. Qui est quand même juste à côté de la voiture. Et là, tu sens que les camions, c'est ce qui fait qu'on mange. Et donc, le jour où le pétrole devient trop trop cher ou ça devient un peu plus compliqué, il faut quand même qu'on ait des solutions autour de ça. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même, tu vois, continuer un peu dans cette voie. Et peut-être que les stations ferment parce qu'il n'y a peut-être pas encore le marché, peut-être qu'il n'y a pas de volonté politique au début. Il faut peut-être aussi un truc comme ça. Il faut peut-être, tu vois, qu'il n'y ait aucune taxe dessus, qu'il y ait des facilités pour s'implanter. Enfin, comme on a fait un peu pour l'électrique au début, ça a mis du temps quand même à arriver. Même les bornes de charge, c'est pas si compliqué de mettre une borne de charge, c'est que du courant. Mais pour autant, il a fallu quand même beaucoup de foncier aussi, c'est un vrai problème de foncier. Et puis l'hydrogène, ça apporte tellement de problématiques, les risques d'explosion,
de transport, de stockage, etc. Alors pas tant dans les véhicules, ça fuite, mais c'est un peu comme le GPL, c'est-à-dire que le pire n'est jamais sûr, les incendies quand il y en a sont pas catastrophiques, enfin bref. Mais ça à la limite, c'est pas le truc qui me fait le plus peur. Le problème, c'est que voilà, installer une station à hydrogène, c'est 1 million. Ça délivre pas non plus de quoi alimenter des milliers et des milliers et des milliers de voitures. Enfin, c'est quand même compliqué. Et puis, tu le dis, t'aboutis à des véhicules qui sont compliqués, qui n'ont pas les avantages du thermique. Parce qu'une Mirai, par exemple, ça pèse 1850 kilos. Donc, tu gagnes même pas en légèreté par rapport à un équivalent à batterie.
T'as beaucoup d'entretien et t'as une durée de vie de la pile à combustible, ce que j'ai appris aussi récemment.
Et du platine.
Et en fait, voilà. Et puis en plus, tu as quand même une conso. Moi, j'avais calculé qu'on faisait à peu près du 50 kWh au 100 aussi.
Ah oui.
Ce qui est délirant, en fait. Finalement, tu te dis, c'est le même problème que pour le pétrole. C'est que finalement, on consomme de l'énergie pour rien.
Bah, surtout qu'il y a énormément de pertes en ligne en amont. Parce que, en gros, ton hydrogène en plus, si tu l'as produit, tu l'as produit comment ? Alors, soit en faisant du reformage du méthane, c'est dégueulasse. Ou il y en a qui font du reformage du charbon. Alors là, c'est sauron, là. C'est bon, bref. ou alors, tu fais de l'électrolyse. Mais ça veut dire que tu as consommé énormément d'énergie pour créer ton hydrogène qui va, lui, redevenir de l'électricité dans la voiture où tu vas l'utiliser. Donc c'est un truc de stockage d'énergie qui a une efficacité un peu toute pourrie.
Peut-être que la réponse viendra dans les technos de batterie. Peut-être qu'on arrivera à faire des batteries de grosse capacité sans utiliser trop de terres rares, de métaux précieux. Bon, je sais pas, hein, mais pourquoi pas. Tu vois, on suit beaucoup l'actualité des batteries tous les deux, donc on voit qu'il y a quand même de l'innovation là-dedans.
Ah oui.
Tesla arrive à faire des camions.
Il y a des enjeux économiques monstrueux, surtout derrière. C'est-à-dire que si tu arrives à viabiliser une techno... Je voyais un papier sur les futures batteries. Enfin, elles existent, mais pas dans nos voitures. Les futures batteries lithium métal, en gros la promesse c'est que dans la même densité vous avez beaucoup plus d'énergie, ça permet de faire plus de power dans une batterie plus petite. Évidemment c'est très intéressant, sinon que le problème c'est qu'elles perdaient assez rapidement de leur capacité. Des chercheurs ont trouvé d'ailleurs qu'en fait il suffisait de les décharger assez régulièrement pour qu'elles retrouvent leur capacité d'origine. Bon, mais c'est pas pour tout de suite, mais celui qui arrive à trouver, tu vois, la martingale du grosse capacité, pas cher, pas lourd, pas cher à produire, avec des métaux faciles à trouver, bah c'est jackpot, quoi.
Et surtout, tu as un intermédiaire aussi dont on parle pas assez, je trouve, c'est l'utilitaire, celui que utilisent tous les artisans. Il y a quelques utilitaires électriques aujourd'hui. Moi, j'ai testé, tu vois, l'ID Buzz Cargo. Ford en fait un petit peu des transits électriques, etc. Mais l'autonomie de ces trucs-là, pour l'instant, c'est une grosse centaine de kilomètres. Ça dépend un peu si tu prends l'autoroute, etc. Pourtant, c'est des véhicules qui sont super parce qu'ils ont beaucoup de coupe. Enfin, ça n'a rien à voir avec, tu vois, des utilitaires diesel avec 8 vitesses et puis tu as l'impression que tu es en sur-régime tout le temps. Et en fait, il y a vraiment un marché pour ça aussi parce que ça encombre pas mal nos centres-villes, hein, toutes ces bestioles. Oui. Et là, c'est pareil, on a un vrai problème de qu'est-ce qu'on met comme taille de batterie pour pas que ça coûte une blinde et pour aussi avoir à peu près d'autonomie une fois que tu le charges. Mm-hmm. Ce qui est le problème du Cybertruck d'ailleurs, parce qu'on donne des autonomies, mais dès que tu le charges, on s'aperçoit. Moi, j'ai discuté aux États-Unis avec des gens qui ont des F-150. Il disait, ouais, l'autonomie qu'on te donne, elle est bien, mais dès que tu remplis la benne, tu fais pas 100 miles. Et aux États-Unis, 100 miles, c'est pas beaucoup.
Non, 100 miles, tu peux faire ça dans la journée à Los Angeles, juste avant de faire les courses. Hein,
Puis si tu dois charger ta voiture tous les jours, c'est quand même, c'est quand même assez contraignant, quoi.
Alors, justement, parce que là, tu me donnes une transition de rêve. Tous les gens qui disent, moi, je préfère attendre l'hydrogène, pourquoi ? Parce que tout à coup, ils resteraient face à une voiture dont l'usage serait la même. Ils iraient à une pompe, ils rempliraient d'énergie et puis ils partiraient, voilà, à l'aventure. La peur, c'est le problème de la recharge, qui existe quand même, hein, parce que dans les centres-villes, c'est un vrai souci. Moi, c'est le seul exemple de quelqu'un que je connais, qui est un ami, qui avait acheté une Tesla, pour tout dire, qui habitait dans le 17e arrondissement de Paris, mais qui n'avait pas de parking. Donc, il se branchait sur des bornes publiques, etc. Et un jour, il a craqué, il est allé la rendre, et il a pris une hybride, parce que... c'était pas tant la difficulté, il s'était jamais retrouvé vraiment dans des situations trop désagréables, mais c'était une angoisse du quotidien, tu vois ce que je veux dire, de dire flûte, il faut que je trouve et puis il faut que je trouve maintenant, parce que c'est pas un truc que tu peux reporter à dans 3 jours. Ce problème là il est
ça aux États-Unis, tu vois, ça existe beaucoup moins parce qu'ils ont beaucoup équipé de chargeurs rapides en ville.
Ouais.
Ce qu'on n'a pas trop fait nous Lyon, Marseille, Paris, ça commence maintenant seulement à avoir des stations rapides, mais là-bas, tu as vraiment des superchargeurs en plein milieu de San Francisco, de Los Angeles, de New York, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc qui peut changer la vie.
Ça va bien. Et puis, ils sont aussi sur des villes nettement moins denses, avec beaucoup plus d'habitats individuels, etc. Un peu comme chez nous. C'est-à-dire que tous les gens qui ont une maison, un jardin, un garage, n'ont aucun souci pour charger leur voiture. Du coup, je voulais souligner la vraie bonne idée des parkings Indigo, qui ne sponsorisent pas cet épisode, hein, je vous mets à l'aise.
Bientôt.
Écoute, on va leur proposer. Parce que le problème de la recharge, c'est pas tant la recharge que la lisibilité des tarifs de recharge. On a tous eu des mauvaises surprises. Un jour, on s'est branché sur une borne, on revient 4 heures après, on dit « Ah, comment ça, 25 ou 30 ou 40 ?» Enfin, qu'est-ce que... Quoi ? Mais j'ai pris 12 kilowatts. Pourquoi ? Bref, parce qu'on avait oublié de regarder qu'avec la carte qu'on a utilisée, en plus de l'euro machin, finalement, il y a X euros au bout de X heures. Ouais. Bref, c'est un peu compliqué. Et Indigo, ils ont trouvé un truc. Ils affichent maintenant un truc extrêmement lisible. Si tu as une place de parking dédiée, un abonnement dans un parking Indigo, et ben maintenant, en plus de ton abonnement de parking, tu peux payer forfaitairement 49 euros par mois et tu te recharges autant que tu veux sur les bornes qui sont à l'intérieur du parking. Même si tu n'as pas une place dédiée, enfin un abonnement Indigo dans un parking en particulier, et ben tu peux payer 69 euros par mois pour aller te recharger gratuitement, forfaitairement, sur toutes les bornes de tous les parkings Indigo. J'ai vu ça sur Twitter, quelqu'un a pris la photo, il y a deux prix, trois prix, c'est lisible tout de suite, on comprend exactement à quoi on s'expose. Et puis voilà, 49 euros par mois pour recharger ta voiture, ça va, c'est quand même plutôt correct, je sais pas ce que t'en penses.
Alors, tu sais, c'est amusant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais des discussions comme ça avec des gens qui voulaient absolument pas passer à l'électrique et ils ont toujours des arguments un petit peu massus. Et c'est vrai que cet argument-là, tu sais, des fois, on fait un petit peu le comparatif et on se dit « Ah oui, imagine, en thermique, tu es obligé d'aller à la station alors qu'avec l'électrique, elle est tout le temps chargée chez toi, etc. » Enfin, il y a plein d'avantages à avoir une électrique. Mais imagine si dans le monde du thermique, tu payais l'essence entre, je ne sais pas, 2 et 100 fois le prix pour avoir la même chose. Si il te fallait un abonnement chez Total, un abonnement chez Shell, un abonnement chez machin, un abonnement chez Indigo.
Est-ce que j'ai la bonne carte dans la poche ? Est-ce que non ? Attends,
qu'on accepte sur l'électrique aujourd'hui, on ne l'accepterait jamais sur le thermique.
Exactement.
Même le fait de badger, c'est un délire. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, on a tous des cartes qui font du sans contact. Et tu vois, aux États-Unis, ils ont tous des lecteurs sans contact, c'est obligatoire. Et c'est pour ça que je pense que le législateur, là, doit jouer sa carte, c'est-à-dire il doit dire ça suffit, fin de la récré, on peut avoir de la liberté de commerce, hein, je suis tout à fait pour ça, mais il y a un moment, il faut que quand tu mets ta voiture à charger, tu saches au moins ce que tu vas payer,
oui.
Et que tu aies au moins un prix qui est affiché, même si tu passes par un opérateur, même si tu passes par un badge, un machin, que tu saches combien tu vas payer. Moi, je me suis déjà retrouvé à charger une heure et à payer 100 euros pour de la charge lente à l'étranger, tu vois, je nommerai pas l'opérateur, mais... Tout le monde se renvoyait la balle, mais à la fin, c'était toi. On t'a dit « Oui, mais t'as pas regardé le tarif. » Oui, mais j'étais dans un parking souterrain et je n'avais pas Internet. Donc, je ne pouvais même pas avoir le tarif. Et tu vois, on se retrouve quand même dans des situations où on accepte parce qu'on est des early adopteurs, mais en vrai, c'est inacceptable.
Non, c'est inacceptable.
Ce truc-là ne devrait pas exister. Ouais, et moi, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui...
J'ai eu une aventure, moi, comme ça, que je ne sais pas si je l'ai raconté un jour. Il fut un temps, à l'aéroport Charles de Gaulle, tu pouvais réserver une place de parking, enfin bref. Et là, tu vois, la prépayer en ligne, super pratique. T'arrives, tu rentres un code, ça marche, c'est super. Et tu pouvais aussi réserver une borne de recharge. Et évidemment, quand tu venais te garer le temps d'un week-end ou d'un voyage, etc., en gros, ils t'offraient la recharge en disant qu'est-ce que ça va leur coûter, finalement, par rapport aux plus de 100 euros, souvent, que tu vas payer pour une semaine ou deux semaines de parking. Et je l'ai fait une fois, c'est formidable, c'est vraiment merveilleux, surtout quand tu peux regarder l'état de ta voiture à distance, et où finalement, tu vois, avant de prendre l'avion du retour, j'ai déclenché la recharge, je suis arrivé, elle était à 100%, j'ai trouvé ça formidable. Sinon que, il fallait réserver une place numérotée, on te donnait le numéro de ton chargeur, et ben moi je suis arrivé et la place elle était prise. Bah oui, parce qu'évidemment dans un parking d'aéroport, t'as la voiture du monsieur qui a raté son avion, ou qui a dû changer de truc, qui a dû changer de parcours, qui machin, c'est compliqué. Et je sais que ça crée quand même des soucis, parce que voilà, les gens n'étaient pas contents, tu réserves des trucs, c'est pas la... Bref. Et ce que j'avais pas sondé en fait, la fois d'après quand j'ai voulu faire la même chose, c'est que Charles de Gaulle avait changé son fusil d'épaule. C'est-à-dire que d'un coup, il y a d'autres bornes, tu les réserves plus, s'il y a une place, tu te mets dessus, et donc ce que j'ai fait, j'ai badgé, je me suis branché, je suis revenu, là aussi, en sous-sol, pas trop d'infos sur l'application de mon enfin qui va cadet avec mon badge de recharge. Et quand j'ai reçu la note, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que de fait c'était genre 150 €, enfin un truc, parce qu'évidemment c'était pas la recharge qu'on me faisait payer, c'était l'occupation de la borne. Et de fait,
on peut dire que ces problèmes n'existeront peut-être plus quand quasiment toutes les places auront des prises au moins, ou des choses comme ça. En fait, c'est vrai qu'on vit aussi le moment compliqué, et c'est bien qu'il y ait des gens qui le vivent, mais c'est bien que ça se rationalise.
Nous sommes des défricheurs aussi.
Et le prix sur autoroute, tu sais, qui avait vraiment flambé là pendant la crise un petit peu, et c'est vrai que maintenant ça redevient des tarifs acceptables. Ouais. C'est vrai qu'il y a une période où même l'argument de l'électrique coûte moins cher que le thermique. C'était... Il fallait quand même.
Fallait avoir la foi quand même. Hein.
Voilà, 1 € le kilowattheure, tu te dis là, ils prennent quand même une belle petite marge dans tous les cas. Alors que Tesla actuellement, par exemple, est au prix quasiment du courant de chez toi.
Okay, je regardais, c'était 30-35 centimes, donc c'est un peu plus cher qu'eux. Mais alors, j'étais frappé de voir des superchargeurs qui modulent un peu leur tarif dans la journée, pas de beaucoup, mais il y en a carrément qui font des soldes la nuit. J'ai vu des superchargeurs en région parisienne, à Vélizy par exemple, si tu vas charger ta Tesla ou autre chose d'ailleurs. Ah non, autre chose, je ne sais pas. Je sais plus, 23h minuit, tu es à 12 centimes. Tu es à la moitié du tarif régulé à peine. Quoi. C'est assez frappant.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que vraiment ce qui manque pour un peu le dernier maillon, c'est plus tellement les chargeurs rapides sur autoroute, puisque ça, maintenant ça va à peu près, puis je pense qu'il les augmente petit à petit. Mais par contre, c'est vrai, la charge de destination, c'est-à-dire tu vas en vacances, tu vas dans un endroit où tu ne sais pas à quoi t'attendre, où tu sais que tu n'as rien chez toi, et où tu ne sais pas à quoi t'attendre. Et moi, je suis parti plein de fois en vacances avec les enfants, un peu à l'aventure, et tu t'aperçois, des fois, tu es, j'en sais rien, dans le bassin d'Arcachon, par exemple, dans des endroits où il y a le moins de bornes, et tu as une ou deux bornes dans tout le village, et toi, tu n'as pas de borne chez toi, donc en fait, tu passes ton temps à te dire pendant les vacances, alors attends, quand est-ce que je vais réussir à
la mettre ? On va faire
ça,
mais par contre, il faut que j'aille mettre la voiture, c'est à 20 minutes à pied.
Et alors... tu n'as pas envie en vacances.
Non, en plus, tu n'as pas envie.
Tu ne veux pas de stress. Donc ça, quand on aura éliminé ce stress de... effectivement, je me recharge un peu quand j'ai envie, je pense que ça ira déjà beaucoup mieux.
Et puis de mettre dans le coffre ou dans ton frunk, à la fois le câble T2, le chargeur 220, un prolongateur un peu puissant...
Avec un bout de ta pompe dans ta voiture thermique. Écoute, c'est pareil, c'est des choses qu'on accepte aujourd'hui, mais on ne devrait pas avoir de câble à transporter. Tout le monde a son câble, c'est un délire. Quoi.
C'est amusant, c'est vraiment le cycle de la vie. Ça m'a rappelé ma première voiture. Ma première voiture, c'était il y a très longtemps. Et pourtant, j'avais passé mon permis un peu tardivement. Et c'était une R5. Mais c'était une R5 automatique, monsieur, qui était dans un état tel qu'on me l'avait donné. Ça vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur cette voiture. Et le problème le plus saillant de cette voiture, c'est que la jauge d'essence marchait pas. J'étais incapable de savoir si j'avais... Je savais quand je faisais le plein que c'était plein, mais à partir de ce moment-là, c'était... la grande incertitude du sport. Et du coup, tout le temps où j'ai eu cette voiture, je me suis promené avec un jerrycan d'essence dans le coffre, ce qui n'est pas le truc le plus sûr à faire. Enfin bref, mais on était jeunes, on était fous. Et donc, c'est amusant parce que, tu vois, cette peur de la peur de l'autonomie, c'est un truc que j'ai eu très, très tôt dans la vie. Et finalement...
Tu redécouvres un moto aujourd'hui. Moi,
ah oui, totalement.
Moto électrique, tu t'aperçois qu'en fait, les gens en moto n'ont pas d'autonomie. Non. Une bonne moto, elle fait 150 km en gros sur
l'autoroute. Ah oui, à tout casser, oui. Oui, je travaille avec un garçon qui a une zéro et je le vois religieusement charger sa batterie mais tous les jours au bureau. Pourtant il habite pas très loin, enfin c'est et quand on fait des choses parfois dans Paris, je dis tiens, tu peux repasser au bureau charger ça. Il dit attends, est-ce que je peux, enfin c'est vrai qu'en termes d'autonomie t'es quand même contraint par la taille. Enfin bon, mais tout ça va se régler, nul doute, en tout cas avec le temps. Et ben voilà, je crois qu'on en a terminé. Merci Didier Pulicani.
Mais avec plaisir Cédric.
Où est-ce qu'on peut te retrouver ? On te retrouve sur Mac4ever bien évidemment.
Oh oui, puis je vous fais plein de vidéos sur YouTube aussi. Puis je participe à plein de podcasts cool, tu vois.
Oui, tout à fait.
Copains, chez Olivier Frigara de On refait le Mac.
On refait le Mac. Et on refait la F1 d'ailleurs pour les passionnés de... On se parlera de sport automobile un jour parce que c'est un truc où là aussi... Enfin en gros tout va changer.
J'en ai fait un peu aussi.
Oui, non, mais t'as
en
fait,
électrique.
Mais. Bah oui, c'est ça, parce que c'est ce que je dis tout le temps. Pourquoi est-ce que le sport automobile existe ? Bah, il existe pour mettre en avant les voitures des constructeurs. Et les constructeurs, ils mettent en avant les choses qu'ils ont envie de te vendre. Donc, je pense que l'essentiel du sport automobile va devenir électrique assez rapidement. C'est quoi ton prochain test ?
Eh bien, écoute, je pars essayer justement le nouveau Scénic très bientôt. Ah. Et j'ai vraiment hâte. La voiture de l'année, on le rappelle.
Plus encore que le Cybertruck ?
Oui, je pense que... Non, je sais pas. C'est dur de répondre à cette question. C'était une colle, ça.
Bon, merci beaucoup, en tout cas. À très bientôt.
Ciao, ciao.
C'est ainsi que se termine cet épisode des Doigts dans la Prise. On espère évidemment qu'il vous a plu. On espère surtout que vous êtes bien abonné à ce podcast. On n'ose pas imaginer d'ailleurs que ce ne soit pas le cas. Si vous voulez soutenir ce podcast, il y a plusieurs façons simples et gratuites qui sont à votre disposition. D'abord évidemment, s'y abonner, ça c'est fait. Parlez-en autour de vous. Et puis le plus important, allez sur votre plateforme de podcast préférée, surtout si c'est Apple, parce que les algorithmes sont ainsi faits. C'est la meilleure manière de rendre le podcast plus visible encore et de lui faire... regagner sa position de number one. L'espoir fait vivre. Les Doigts dans la Prise est une production signée Streamstar. Merci à tous, on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, bonne route et à la prochaine.